Directives pour les réunions de culte résumées. Vous trouverez ci-dessous des références à des réunions, tirées sous forme d'extraits de plusieurs écrits de George Fox, d'un écrit de Francis Haugill et d'un d'Isaac Pennington. Les réunions de culte des premiers Quakers avaient lieu le premier jour dimanche. Au début, ils se réunissaient dans des maisons, des champs et des granges. Plus tard, ils se réunirent dans des maisons de réunion. Personne n'était désigné comme pasteur pour prêcher un sermon. Il n'y avait ni chant en groupe, ni lecture de la Bible, ni prière collective à l'unisson à partir d'un texte ou de mémoire. Au lieu de cela, tous s'assemblaient en silence, puis commençaient à attendre, dans le silence, la direction, l'enseignement et la conduite du Saint-Esprit et de la lumière en chacun d'eux. Personne ne venait à la réunion avec un ordre du jour à présenter ni avec quelque chose de préparé à dire. Cela violerait l'esprit de la réunion, être totalement gouverné par le Saint-Esprit à cet instant. Lorsque les personnes devenaient silencieuses et pensaient au nom de Jésus, il y avait des individus à qui le Saint-Esprit demandait de partager certaines révélations qu'ils venaient de recevoir ou de se lever et de prophétiser, et il y avait les nouveaux convaincus, saisis par le Saint-Esprit pour exprimer leurs gémissements, leur joie et leurs supplications. Le chant inspiré par l'Esprit était reconnu et permis, et d'autres se joignaient au chant s'ils le souhaitaient, mais il n'y avait pas de moment fixé pour les chants, et il n'incombait à personne de conduire le chant, tout était inspiré par l'Esprit sur le moment. Beaucoup de révélations restaient privées pour ceux qui les recevaient, sans obligation de les partager. Les affaires de la société étaient traitées le lendemain lors de la réunion des hommes et de la réunion des femmes. Les disputes n'étaient jamais permises dans une réunion. En cas de désaccord, une réunion séparée était fixée pour traiter le désaccord, sans troubler l'ensemble du groupe. Les membres spirituellement mûrs du groupe tranchaient le désaccord. Même les questions d'interprétation des Écritures étaient découragées dans les réunions, car la question suscitait trop souvent des controverses parmi les immatures en Christ, conduisant à la formation de groupes en sectes se cristallisant autour d'une interprétation particulière de l'Écriture, ce qui était sans pertinence pour le progrès spirituel de quiconque, et ne faisait que ralentir ceux qui s'impatientaient avec la controverse. Si quelqu'un enfreignait ces règles par erreur, il n'était pas censuré dans la réunion. On allait plutôt le voir après la réunion, afin qu'un membre spirituellement mûr du groupe le corrige avec douceur, sans être saisi par l'orgueil d'occuper la position de correcteur, ce qui rendrait sourdes les oreilles de la personne corrigée. De cette manière, le Saint-Esprit contrôlait tout le culte, ainsi, jamais deux personnes n'étaient poussées à parler en même temps. Les détails des révélations partagées étaient le plus souvent applicables à tous. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ainsi rendre un culte depuis votre esprit charnel, parler selon la volonté de votre esprit, prier depuis votre esprit, réciter un enseignement antérieur, chanter depuis votre esprit, lire la Bible, tout cela est en dehors d'un culte en esprit et en vérité et constitue une abomination pour le Seigneur. L'apôtre Paul et les premiers Quakers appelaient un tel culte, un culte volontaire, will worship. De la parole du Seigneur au-dedans, nous devons être purifiés avant de pouvoir vraiment adorer. Tous doivent adorer en esprit et en vérité. Je renie totalement toutes les autres formes d'adoration, être en Jésus c'est être dans la vérité. Le vrai culte en esprit et en vérité ne se limite pas à une réunion de croyants. Le vrai culte consiste à suivre continuellement la conduite du Seigneur dans ce qu'il faut dire et faire, non seulement dans une assemblée de croyants, mais toujours, continuellement, partout. Seuls ceux qui sont en esprit et en vérité peuvent le faire. Le vrai culte en esprit et en vérité ne commence pas lorsque les croyants s'assemblent en réunion, et il ne se termine pas à la conclusion de la réunion. Mais le vrai culte est sans commencement ni fin, continuellement, toujours, partout, spécifiquement dans l'esprit et dans la vérité, où l'ennemi ne peut entrer. William Penn a écrit « Le véritable culte rendu à Dieu, c'est faire sa volonté ». Pour plus de détails sur ce culte véritable et continuel, voir la note de bas de page à Jean 4, 24. Aucun service de culte de croyants en réunion n'est dans l'esprit, à moins que le Saint-Esprit ne contrôle la succession des événements et les paroles, qu'il s'agisse de prise de parole, de chant ou de prière. Que la parole de Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous avertissant les uns les autres avec des paroles de Christ dans vos cœurs par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant au Seigneur avec grâce dans vos cœurs. Col 3, 16. Un appui scripturaire supplémentaire pour une telle réunion se trouve dans 1 Corinthiens 14, 26, 33. 26 Quoi donc, frères, lorsque vous vous assemblez, que chacun de vous ait un psaume, une doctrine, une langue, une révélation ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification, mais sans rien apporter déjà préparé, au contraire, tout doit être reçu dans la réunion par l'Esprit. 27 Si quelqu'un parle en une langue langage, que ce soit deux, ou tout au plus trois, et chacun à son tour, et que l'un interprète. 28 Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'ils se taisent dans l'Église, qu'ils parlent à eux-mêmes et à Dieu. 29 que deux ou trois prophètes se sont inspirés par l'Esprit pour enseigner ou prêcher, à ce moment-là parlent, et que les autres jugent ce qu'ils entendent. 30 si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier cesse de parler afin que le second puisse déclarer sa révélation. 31 Ainsi vous pouvez tous prophétiser, l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient encouragés. 32 Car les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 33 Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix et de l'ordre, comme dans toutes les églises des saints. De la parole du Seigneur au-dedans, dans votre service de culte, regardez autour de vous, voyez-vous le Saint-Esprit? Un culte correct consiste à ce que deux ou trois parlent, poussés par l'Esprit. Réfléchissez-y. Comment le Saint-Esprit peut-il conduire un service si chacun n'est pas soumis à la direction de l'Esprit en étant simultanément silencieux pour écouter ses enseignements et ses impulsions? À moins qu'une personne ne soit poussée à cet instant par le Saint-Esprit à prêcher ou prophétiser, chanter ou prier, le service est sans le contrôle de l'Esprit. Si quelqu'un prêche, chante, lit et prie selon un programme établi, donc depuis son esprit charnel, etc., l'Esprit ne peut être entendu ni conduire, silence toute chair devant l'Éternel. Actes 2, 13. Paul a dit, afin que tous puissent prophétiser l'un après l'autre. Note, il n'y a pas de prédicateur unique. Chaque homme et chaque femme, selon l'impulsion de l'Esprit, doit parler, et il n'y aura pas plusieurs personnes parlant les unes par-dessus les autres, parce que l'Esprit est au contrôle. Si un homme parle et qu'un autre a quelque chose à dire, le premier doit céder au second. C'est le service ordonné décrit dans la Bible, mais manqué par presque tous, à cause d'idées préconçues sur ce que doit être une réunion de culte. Même Jésus ne jugeait, ne parlait ni ne faisait quoi que ce soit sans l'impulsion spécifique de l'Esprit, de moi-même, je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jean 5, 30 Le Fils ne peut rien faire de lui-même par sa propre volonté, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19 Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, je fais seulement exactement ce que le Père m'a ordonné de faire. Jean 14, 31 J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je ne dis au monde que ce que j'ai entendu de lui. Jean 8, 26 Car je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé me commande lui-même ce que je dois dire et ce que je dois déclarer. Et je sais que obéir à son commandement, c'est la vie éternelle. Ainsi tout ce que je le dis exactement comme le Père me l'a dit. Jean 12, 49, 50 Celui qui parle de lui-même, depuis son propre esprit cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 7, 18 Tout homme qui parle de Dieu ou de Christ sans des paroles spécifiquement fournies par l'Esprit cherche sa propre gloire. Si vous prêchez, enseignez, ou même parlez à d'autres de Dieu ou de Jésus sans être spécifiquement ordonné dans chacun et tous vos mots et chacune et toutes vos actions, vous affirmez essentiellement que vos propres paroles et vos propres actes sont supérieurs à ce que seraient ceux de Jésus s'il prenait lui-même ses décisions sur ce qu'il faut dire et faire. Christ a dit, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfait purifié, restauré à l'image spirituelle de Dieu, spécifiquement autorisé et rendu parfait sera comme son maître. » Luc 6, 40 Jusqu'à ce que vous soyez purifiés au point que l'Esprit parle à travers vous, votre témoignage, votre enseignement et votre prédication n'atteindront pas la part sainte de chaque personne, et votre croissance sera ralentie ou stoppée. L'enseignement est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas entendre, atteindre la pureté et entrer dans le royaume. Ils sont en captivité spirituelle parce qu'ils conduisent d'autres en captivité spirituelle en enseignant des erreurs. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme les oracles paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le fasse avec la force que Dieu donne, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4, 11. Ces choses, nous les disons, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, joignant des vérités spirituelles à des paroles spirituelles. 1 Corinthiens 2, 13 Les hommes et les femmes se réunissaient dans des pièces séparées ou avec un rideau passant au milieu d'une même pièce. Autant que je comprends, c'était pour éviter la distraction du sexe opposé pendant l'attente du Seigneur. Il faut réaliser qu'il existait un spectre de pureté au sein de chaque réunion. Des anciens amis dans le royaume et mûris en père et mère en Christ, jusqu'aux nouveaux convaincus, encore marqués par les tâches du monde à enlever et donc encore sujets aux distractions du sexe opposé. Ci-dessous, Fox a beaucoup à dire sur les critiques de cette séparation physique, mais non spirituelle. Il y avait une communion de leurs esprits qui se produisait dans la lumière. Les gens apprenaient à connaître l'esprit les uns des autres. Comme Fox l'a dit dans cet extrait de la lettre 149, Tous les amis, partout, rassemblez-vous, et dans la mesure de l'Esprit de Dieu, attendez, afin qu'avec lui tous vos esprits soient guidés vers Dieu, pour recevoir la sagesse de Dieu, afin que vous en veniez tous à savoir comment vous pouvez marcher vers lui dans sa sagesse. Afin que cela soit justifié de votre part, et que vous y soyez préservés jusqu'à Dieu, et que vous soyez glorifiés. Et amis, réunissez-vous, et connaissez-vous les uns les autres en ce qui est éternel, ce qui était avant que le monde fût. Car ne se connaître les uns les autres que dans la lettre et la chair vous distingue peu des bêtes des champs, car ce qu'elles savent, elles le savent naturellement. Mais se connaître les uns les autres dans la lumière qui était avant que le monde fût, cela vous distingue des bêtes des champs, et de la connaissance du monde, et vous amène à vous connaître les uns les autres dans la semence élue qui était avant que le monde fût. Dans une lettre à des croyants nouvellement convaincus, Francis Raugel nous donne un peu plus de description. Et attendez pour discerner, afin d'avoir du sel en vous-même, pour connaître et savourer les uns les autres dans l'esprit, et son opération et son action, afin qu'étant sensible et ressentant les états les uns des autres dans l'esprit, vous puissiez parler pour vous informer les uns les autres, pour vous édifier les uns les autres, dans la foi précieuse. Mais soyez lents à parler et prompts à entendre, et ne nourrissez pas la sagesse sensuelle les uns des autres, qui est le siège du serpent, car des paroles sans connaissance obscurcissent le conseil et trahissent la simplicité. D'après la lettre d'Alexandre Époque, donnant d'autres indications sur les réunions, comme c'était la manière et la pratique des saints hommes de Dieu, qui étaient appelés dans la lumière de se réunir pour attendre Dieu, et de se parler l'un à l'autre, selon que l'esprit de vérité les mouvait et leur donnait de s'exprimer, pour se fortifier et s'édifier mutuellement dans leur très sainte foi. De même, il est maintenant jugé convenable et bon que tous qui sont appelés à être saints se réunissent souvent pour attendre le Seigneur, afin que leur force soit. Ainsi, amis, lorsque vous venez ensemble pour attendre Dieu, venez avec ordre dans la crainte de Dieu. La première personne qui entre dans le lieu de votre réunion ne doit pas être négligente ni errer de ci de là, ni dans son corps ni dans son esprit, mais s'asseoir innocemment quelque part, tourner son esprit vers la lumière, et attendre Dieu seul, comme si nul n'était présent sinon le Seigneur, et là vous êtes fort. Puis que le suivant qui entre, avec simplicité de cœur, s'assoie et se tourne vers la même lumière, et attend dans l'esprit, et ainsi tous les autres entrant dans la crainte du Seigneur, s'asseyant dans une immobilité pure et dans le silence de toute chair, et attendant dans la lumière. Quelques-uns ainsi rassemblés par le bras du Seigneur dans l'unité de l'Esprit, c'est une réunion douce et précieuse, où tous rencontrent le Seigneur. Ceux qui sont amenés à une attente pure, calme et silencieuse de Dieu dans l'Esprit se sont approchés du Seigneur plus que ne le peuvent les paroles, car Dieu est Esprit, et c'est dans l'Esprit qu'il est adoré. Ainsi mon âme a une chère union avec vous, qui attendez purement Dieu dans l'Esprit, même si aucun mot n'est prononcé à l'oreille extérieure. Ici se trouve la vraie nourriture dans l'Esprit. Et tous ceux qui se réunissent ainsi pour attendre le Seigneur renouvelleront leurs forces chaque jour. Dans une telle réunion, où la présence et la puissance de Dieu sont ressenties, il y aura une réticence à se séparer, étant prêts à dire en vous-même « Il est bon d'être ici », et tel est le but et la fin de toutes les paroles et de tous les écrits, amener les gens à la parole éternelle et vivante. Ainsi, chers cœurs, lorsque vous venez ensemble pour attendre Dieu, venez seuls et purement, afin que vos réunions soient pour le mieux et non pour le pire. Et si quelqu'un est poussé à prononcer des paroles, qu'il attende humblement dans la pure crainte, pour connaître la pensée de l'Esprit, où et à qui elles doivent être dites. Si quelqu'un est poussé à parler, veillez à ce qu'il parle dans la puissance, et lorsque la puissance est immobile, vous êtes immobile. À tous ceux qui parlent des mouvements du Seigneur, je vous le charge, prenez garde d'abuser de la puissance de Dieu, en accomplissant une chose mauvaise sous prétexte d'être poussé par le Seigneur. Car la puissance pure peut mouvoir, puis l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer peut présenter une chose mauvaise à la vue de l'entendement. Et voici le danger d'abuser de la puissance en faisant ce que la vraie puissance condamne, tout en prétendant que la puissance y pousse. C'est un double péché. Que chacun donc attende patiemment, et ne se hâte pas de courir dans les ténèbres, mais demeure bas dans la vraie crainte, afin que l'entendement soit ouvert pour connaître la pensée de l'Esprit. Et alors, comme l'Esprit meut et conduit, il est bon de suivre ses conduites, car cela sont conduits dans toute la vérité. Ainsi, mes amis, si vous demeurez près du Seigneur et de la direction de son bon esprit, vous ne vous tromperez pas, mais dans tous vos services et dans toutes vos actions dans le culte de Dieu, vous serez une bonne odeur pour le Seigneur, et le Seigneur acceptera vos services, et bénira et honorera vos assemblées de sa présence et de sa puissance. Edward Burroughs nous donne d'autres conseils sur le fait de dire ce qui a été entendu. Attendez donc dans la puissance de Dieu, et demeurez dans la lumière, qui est l'armure contre toutes les tentations, par laquelle les ténèbres et la mort, et celui qui a la puissance de la mort sont vaincus, et tous ceux qui aiment la lumière sont guidés par elle. Tous, chers amis, qui avez goûté l'amour et la puissance de Dieu, et qui témoignez de la déchirure de la terre, demeurez dans la puissance et la pure crainte du Seigneur, afin que toute tromperie soit tenue abaissée et soumise. Prenez garde à la parole du faux prophète, ou au fait de laisser vos esprits s'échapper dans les ouvertures de sorte que vous puissiez dire ce qui est ouvert dans la lumière. Nous vous enjoignons tous, en présence du Dieu redoutable de vie et de puissance, que vous attendiez tous en silence et attendiez d'avoir du sel et du goût en vous-même pour connaître la voie du Christ par opposition à la voie de l'étranger, car jusqu'à ce que cette différence soit connue en vous-même, vous n'êtes pas capable de juger. Attendez donc tous dans la lumière, qui est l'œil, qui voit dans les mystères du royaume, et que nul ne prononce une parole, si ce n'est celle à laquelle vous êtes divinement poussé astérisque, autrement la conscience de chacun témoignera contre vous. Ne vous hâtez pas lorsque vous voyez des choses s'ouvrir dans vos esprits, demeurez-y grecs, et ne vous précipitez pas à les dire, mais gardez-les comme un trésor dans vos cœurs, prenez garde et demeurez bas dans la crainte du Seigneur Dieu, afin que l'orgueil et la présomption ne s'élèvent pas, et que rien ne soit exalté au-dessus de ce qui est pur. Astérisque, pour être divinement poussé, vous devez pouvoir distinguer la voix divine de la voix du diable, pour comprendre comment et quand cela se produit, voir la note de bas de page à Galates 3:24. Si vous n'êtes pas censé même répéter un enseignement que vous avez entendu avant de pouvoir distinguer la voix du Christ de la voix de l'étranger, vous devriez certainement refuser tout ordre que vous entendez vous enjoindre de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, autre que de vous repentir, jusqu'à ce que vous soyez sûr de quel Seigneur vous donne l'ordre. Suivez cet avis, et vous progresserez. Ignorez-le, et vous ne progresserez pas, mais vous pourriez croire que vous progressez, parce que le diable vous fera faire de plus en plus de choses pour le Seigneur, toutes choses que vous aviez en réalité envie de faire dès le départ, mais chaque chose que vous faites creuse plus profondément vos retards. Si vous vous repentez et commencez à suivre cet avis, vous aurez encore un retard dans votre progression proportionnelle aux blessures spirituelles que vous avez causées à d'autres par vos paroles et vos actes faux. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir les directives pour éviter la tromperie dans comment tirer profit de la puissance changeante de Dieu en attendant le Seigneur. Vous pouvez peut-être voir qu'une réunion, sans ancien doté de discernement spirituel pour la surveiller, court un grand risque de laisser des personnes ambitieuses et immatures prononcer des paroles provenant du mauvais esprit, sans être détectées, et donc de potentiellement nuire à tous les autres dans la réunion. C'est pourquoi la parole du Seigneur au-dedans a dit « Il est dangereux que les jeunes aient communion ensemble ». Dans leur réunion, ils goûtaient aussi une communion avec le Père et le Fils. Les commentaires fréquents étaient « Nous avons eu la présence du Seigneur précieusement parmi nous, et nous avons tous quitté la réunion grandement rafraîchis ». Le premier jour, dimanche, ils se réunissaient pendant plusieurs heures, commençant le matin, avec une pause pour le repas de midi, et continuant l'après-midi. William Dewsbury écrit encore « Ne soyez pas relâchés ni en arrière, mais fidèles au Seigneur, en profitant de chaque occasion pour que les amis se réunissent, et dans chaque ville où les amis sont dispersés, mettez la charge et le soin sur quelques amis qui ont le plus grandi dans la vérité, afin de veiller à ce qu'ils se réunissent pour attendre le Seigneur 3 ou 4 heures, selon que le Seigneur l'ordonne, une nuit ou deux par semaine. » Les premiers Quakers utilisaient les Écritures pour éprouver leur conduite et leur enseignement, sachant que l'Esprit de Dieu n'entrerait pas en conflit avec les Écritures, du moins lorsqu'elles sont comprises dans la puissance de l'Esprit. Ils savaient que c'était l'Esprit qui avait écrit les Écritures, de sorte qu'aucun enseignement ni aucune direction reçue ne serait en conflit avec les Écritures, et puisqu'il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ils savaient que ce qui était interdit dans le passé serait interdit dans l'avenir. Ils ne feraient jamais quelque chose que les Écritures contredisent dans le contexte de l'ensemble. On leur conseillait fermement de ne jamais faire de changement dans leur manière d'agir sans l'accord des membres anciens. Les plus jeunes devaient se soumettre aux anciens, qui avaient évidemment davantage de maturité spirituelle. Ils comprenaient que différentes personnes avaient différentes mesures de l'Esprit de Christ, tout le monde n'était pas égal. Comme l'a dit un autre grand serviteur du Seigneur, Isaac Pennington, « Et amis, vous qui êtes faibles, bénissez Dieu pour l'effort. Vous qui avez besoin d'un pilier sur lequel vous appuyez, bénissez Dieu, qui a pourvu des piliers dans sa maison, et dans la crainte et la conduite de son esprit, faites usage de ces piliers, qui sont fidèles et qui ont reçu de Dieu la capacité, dans sa puissance et sa présence glorieuse avec eux d'aider à soutenir son édifice, tout comme ils avaient reçu du Seigneur la capacité de rassembler vers lui. Celui qui méprise celui qui est envoyé, méprise celui qui l'a envoyé, et celui qui déprécie quelque don, office ou œuvre que Dieu a conféré à quelqu'un, méprise la sagesse et la disposition du donateur. Sont-ils tous pères? Ont-ils tous vaincu l'ennemi? Sont-ils tous parvenus à la maturité dans la vie? Sont-ils tous des étoiles dans le firmament de la puissance de Dieu? Dieu les a-t-il tous faits égaux? N'y a-t-il pas différents états, différents degrés, différentes croissances, différentes places, etc.? Alors, si Dieu a établi une différence et donné des degrés de vie et des dons différents selon son bon plaisir, quelle sagesse et quel esprit est-ce donc qui ne le reconnaît pas, mais voudrait rendre tous égaux, ô mes amis? Craignez devant le Seigneur, honorez le Seigneur dans ses manifestations et dans les différences qu'il a faites parmi les enfants des hommes et parmi son peuple. Il a donné des prophètes autrefois, et le reste du peuple n'était pas égal à eux. Il a donné des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, etc. Et les autres membres des églises n'étaient pas égaux à eux. Il a donné des pères et des anciens maintenant, et les enfants et les jeunes hommes ne sont pas égaux à eux. Ainsi en est-il, en vérité, de la part du Seigneur, et ce qui est de Dieu en vous le reconnaîtra ainsi. Veillez donc, chacun, à ressentir et à connaître sa propre place et son propre service dans le corps, et à être sensible aux dons, aux places et aux services des autres, afin que le Seigneur soit honoré en toutes choses, et que chacun soit reconnu et honoré dans le Seigneur, et non autrement. William Caton, un jeune ministre Quaker, se lamentait sur sa petite stature en Christ, comparée à celle de quelques dignitaires Quakers plus âgés qu'il avait observés, lorsque le Seigneur lui donna cette compréhension classique. « Le Seigneur m'a montré comment ceux qui avaient beaucoup n'avaient rien en surplus, et ceux qui avaient peu ne manquaient de rien, tout comme c'était avec les Israélites d'autrefois. Car pour les frères sages et éminents, qui avaient beaucoup reçu du Seigneur, notez qu'il leur était demandé d'autant plus, de sorte que, de tout ce qu'ils avaient, ils n'avaient rien en trop, sinon ce qu'ils devaient employer dans l'œuvre et le service de Dieu. » Les premiers Quakers insistaient pour que la conduite de leurs membres soit conforme aux normes chrétiennes et à celles des assemblées, contre le mensonge, la tricherie, les jurons, le langage profane, la rage, l'adultère, la mode ostentatoire, l'ivrognerie, etc. Si un membre violait ces normes, des membres de son assemblée locale l'exhortaient en privé à reconnaître son erreur et à condamner ses actions passées, généralement par écrit. Si le membre fautif admettait l'erreur, l'incident était oublié. Si la personne refusait de changer, après des supplications et des raisonnements répétés, elle était expulsée de l'assemblée. Et pour préserver la réputation des Quakers, un avis public indiquait que la personne en question n'était plus associée aux amis. Cela n'était fait qu'en dernier recours après de nombreuses démarches, mais on pensait que c'était nécessaire pour préserver la réputation de la vérité et l'unité de l'esprit au sein de la société. Toute personne expulsée pouvait revenir à tout moment, à condition de condamner ses actions passées. De même, tout signalement de mauvaise conduite qui, après enquête, s'avérait faux, était remonté jusqu'à son auteur, qui était réprimandé pour avoir répandu un faux rapport sur le peuple de Dieu. Seuls les membres spirituellement mûrs étaient autorisés à participer aux décisions disciplinaires. Le fondement scripturaire de cela est « Mais maintenant je vous écris de ne pas avoir de relation avec quiconque se nomme chrétien et qui est sexuellement immoral, ou cupide, ou idolâtre, ou injurieux, ou ivrogne, ou escroc oppresseur, ne mangez même pas avec une telle personne. » Car je n'ai pas à juger ceux du dehors, n'avez-vous pas à juger ceux du dedans, ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. 1 Cor 5, 11, 13 Et bien sûr, si ce genre de croyant ne peut pas être expulsé de votre congrégation, alors c'est vous qui devez partir, sortez du milieu d'elle, mon peuple. La parole du Seigneur au-dedans a dit, ils doivent se retirer de leur secte pour être enseignés. Retire-toi de ta secte, non par orgueil et préjugé, mais sépare-toi assez longtemps pour voir ces faux jugements. Pour pouvoir entendre les enseignements de Christ, vous devez vous retirer silencieusement de votre secte déficient, car il ne vous édifiera pas sur une base fausse. Voir secte et services pour plus de détails. Extrait de la lettre de George Fox sur la cupidité, ainsi l'apôtre ici ne parle pas des fornicateurs, et des idolâtres cupides, et des extorqueurs du monde, qui étaient dehors, car Dieu juge cela. Mais les saints, les apôtres et la vraie Église devaient juger ceux qui pratiquaient de telles choses dans l'Église, montrant que la vraie Église chrétienne avait une puissance, et ne pas garder compagnie ni manger avec de tels, se disant de Christ, qui était dans de telles pratiques, sachant que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ni les ivrognes, ni les fornicateurs, ni les voleurs, ni les injurieux, ni les extorqueurs, ni les idolâtres cupides. Ceux qui vivaient dans ces mots n'étaient pas en mesure d'hériter du royaume de Dieu, car ils étaient sous. De sorte que si les saints gardaient compagnie, ou mangeaient avec de telles personnes non lavées, non sanctifiées, non justifiées, ou avaient communion avec elles, ils prenaient les membres de Christ et les joignaient à une prostituée. Car celui qui est joint à une prostituée est un seul corps, car deux, a-t-il dit, seront une seule chair. Et donc, les corps des saints sont des membres de Christ, à Dieu ne plaise qu'ils soient joints aux prostituées, ou qu'ils en fassent des membres d'une prostituée. Et celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. Et les corps des saints sont les temples du Saint-Esprit, qui procèdent de Dieu et de Christ, et ayant été achetés à prix, le sang de Christ, et lavés sanctifiés et justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu, ils doivent glorifier Dieu dans leur corps, leurs âmes et leurs esprits, qui appartiennent à Dieu, et qu'il leur a donné pour le glorifier, gloire à son nom à jamais. Voir la lettre 391 de George Fox pour plus. Une des raisons de la détérioration de la foi quake est que, au nom de la tolérance et de l'amour, ils n'ont pas insisté sur des normes de conduite pour leurs membres, et un peu de levain fait lever toute la pâte. Ils ont perdu toute ressemblance avec l'unité du Saint-Esprit, la remplaçant par une diversité d'esprits. La détérioration de leur foi a été scellée lorsque les Quakers ont commencé à nier toute autorité nécessaire au sein de l'Église, comme cela commençait déjà au temps de Fox. Cliquez ici pour ces déclarations concernant cette tromperie d'une supposée liberté. Plus tard, ils ont aussi abandonné l'exigence que les Écritures ne soient pas violées par leur compréhension, leurs actions qui en résultaient et leurs poursuites, rationalisant que l'esprit pouvait entrer en conflit avec les Écritures et les supplanter, exactement à l'opposé du principe fondamental des premiers Quakers. En outre, ils ont supprimé l'exigence de ne jamais aller contre les souhaits des anciens dans toute modification de leur politique ou directive. À la place, ils ont substitué une exigence de consensus d'opinion, donnant licence à des personnes spirituellement immatures, souvent les plus agressives de nature, de s'emparer de la direction de l'Église et de la contrôler. Ces personnes agressives et immatures, obtenant souvent des charges dans l'Église, ont ensuite commencé à se crêler sur toutes sortes de sujets, y compris des points fins d'écriture et de doctrine, exigeant dans des disputes enflammées que leurs interprétations soient correctes, attaquant leurs opposants, conduisant à une série de scissions dans la société et forçant les vrais adorateurs à partir. Et bien sûr, lorsqu'ils ont abandonné leur foi dans la divinité de Jésus, ou même la croyance en Dieu, le Saint-Esprit ne préside plus sur leurs réunions. Par conséquent, ils apportent maintenant des déclarations préconçues à partager dans leurs réunions et mettent aussi en avant leurs actions sociales. Ainsi, leurs réunions ne sont qu'une forme de l'original. Considérez ces paroles sages de William Penn, écrites en réponse à l'éloignement de John Perrow hors de la vérité, affirmant que sa lumière intérieure lui avait montré, en contradiction avec la pratique quake, que retirer son chapeau pendant la prière était mauvais. Penn écrit, il est dit que des hommes peuvent reconnaître et croire la doctrine de la lumière intérieure de Christ, et pourtant prendre à tort les suggestions de leur propre imagination obscure pour les conduites de cette lumière divine, et pourtant, ni la profession ni la croyance d'être guidée par elle ne peuvent exempter ceux qui ne sont pas réellement conduits par elle du juste jugement de ceux qui le sont. Si la simple profession d'être conduit par l'Esprit de vérité pouvait disculper ceux qui lui sont étrangers du jugement et de la censure de ceux qui marchent réellement dans l'Esprit, une porte serait ouverte à toutes sortes de libertinage. Quoi que ce soit le devoir de tous de marcher dans la lumière et de l'attendre, afin qu'elle les instruise dans le chemin de la vie et du salut, pourtant ce sont seulement ceux qui sont effectivement conduits astérisque par elle et la lumière, qui peuvent discerner correctement entre les faux esprits et le vrai. Astérisque pour être guidé ou conduit par la lumière doit d'abord se lever dans votre cœur comme une étoile magnifique, de sorte qu'on vous montre tout ce qu'il faut faire et qu'on vous dise tout ce qu'il faut dire. L'avènement indubitable de la lumière vient de la foi dans la voix. Le gouvernement des premiers Quakers avait un principe principal, gardien de la doctrine, ne faire aucun changement à moins que les anciens de l'Assemblée ou de l'Église ne soient d'accord. Lorsqu'un membre moins mûr, avec l'orgueil encore vivant, s'empare d'une révélation qui entre en conflit avec les compréhensions spirituelles des anciens, ce membre moins mûr doit s'en remettre à eux, sinon, il y aura du chaos dans l'Église. De façon certaine, Satan cherchera toujours à introduire furtivement des changements subtils, un à un, jusqu'à ce qu'il ait défait l'ordre et l'unité de l'Église. La déférence à l'égard de la conduite des anciens est la principale sauvegarde, laquelle est toujours compatible avec la conduite des Écritures correctement interprétées par l'Esprit de Dieu chez un membre mûr. Aujourd'hui, nous entendons des chrétiens partout dans le monde, et particulièrement dans les rangs Quakers modernes, donner comme justification à presque toute action sociale ou position politique, « je me sens appelé à le faire ». Sans des membres spirituellement mûrs aux commandes, qui peut contester leur appel, surtout si les deux parties ne reconnaissent même pas l'autorité des Écritures qui, souvent, contredisent clairement cet appel. Pour plus de détails sur la détérioration de la foi quake, voir l'histoire du départ quake hors de la vérité. Pour plus d'informations sur les ruses de Satan pour détruire toute unité de foi, voir les écrits de Stephen Crisp. Le seul programme social que les premiers Quakers avaient dans leurs réunions d'affaires était le secours aux pauvres, aux malades, aux veuves, aux orphelins et aux prisonniers. Ils prenaient soin non seulement des leurs, mais apportaient aussi du secours aux pauvres en dehors de la société dans leur communauté. Il ne protestait contre aucune politique gouvernementale, des appels personnels et courtois, oui, mais jamais de protestation contre le gouvernement, car une telle opposition au gouvernement était, et demeure, interdite par l'Écriture. Rome 13:1-7, 1 Pierre 2:13-14, 2 Tim 2:4. Voir soumission pour plus. Une réunion par semaine, 3-4 heures par réunion le premier jour était courant, n'est pas cherché de tout son cœur, vous devez aussi chercher à la maison chaque jour. Ce temps doit augmenter à mesure que le Seigneur vous éloigne de l'amour du monde. Les premiers Quakers se réunissaient aussi une ou deux nuits par semaine pour attendre le Seigneur ensemble. Si vous n'avez personne avec qui vous réunir, ne vous inquiétez pas, notre Dieu, qui sait tout et qui peut tout, est encore capable de vous guider dans votre attente individuelle du Seigneur jusqu'à ce qu'il y ait d'autres personnes avec qui vous réunir aussi. La parole du Seigneur au-dedans nous a dit, il est dangereux que les jeunes aient communion ensemble, surtout si le silence n'est pas strictement maintenu avant, pendant et après la réunion. Tout ce qu'ils feront, c'est aggraver leurs erreurs. C'est facile à comprendre parce que des personnes jeunes, inachevées, n'auront pas une vérité suffisante pour même communier ensemble verbalement. Quoi qu'elles disent sera probablement erronée, induisant les autres en erreur et s'attirant aussi la condamnation sur elles-mêmes pour avoir parlé dans l'erreur. Celui qui est le plus désireux de parler est probablement celui qui est le plus dans l'erreur. Il est aussi dommageable pour les jeunes d'exprimer leurs doutes à d'autres, ce qui démolit le corps plutôt que de l'édifier. Même le fait de partager entre les réunions des enseignements reçus peut être nuisible, parce que si la personne qui parle rapporte l'enseignement avec orgueil, elle et ceux qui écoutent sont tous deux endommagés. Puisque tous n'ont pas été suffisamment enseignés pour être dans la vérité totale, il existe même la possibilité que des disputes résultent des réunions de jeunes, préjudiciables à tous ceux qui entendent. Tant qu'une direction mûre ne s'est pas formée pour conseiller doucement les jeunes dans la vérité, il y a danger à ce que les jeunes aient communion ensemble. Et souvenez-vous de Paul, l'Esprit l'a conduit en Arabie pour l'enseigner en tête à tête, George Fox a été enseigné de la même manière, tout comme la plupart des Quakers dont les écrits apparaissent sur ce site. Selon la parole du Seigneur au-dedans, aucun langage profane ni aucune malédiction ne devrait être permis dans la réunion, et il devrait être évident pour tous de quel esprit relève quiconque attaque verbalement son prochain, et dans toute réunion il devrait y avoir une certaine uniformité d'esprit et d'objectif. Il devrait être universellement admis par tous que leur but dans l'association et l'assemblée est de rechercher la face de Dieu par une foi au moins dans le nom de Jésus-Christ, d'être enseigné par la lumière Christ de Dieu directement, et de partager leur renseignement lorsque cela est ainsi dirigé, afin que tous puissent atteindre la pureté et l'union avec Dieu dans son royaume, et être gouvernés par lui dans l'obéissance à sa volonté un désir sincère, que ta volonté soit faite. Toute action sociale ne violerait pas les avertissements des Écritures, CAD, n'aurait aucun but politique et aucune orientation anti-gouvernementale, et devrait être directement ordonnée par l'Esprit de Dieu, comme en témoignerait ce qui était assez mûr spirituellement pour avoir édifié le groupe dans la piété comme préalable. Il est un moment, pour tous les chercheurs, dans le ministère de la condamnation, où vous n'êtes pas propre à la communion, en raison de la nature des souffrances que vous endurez, c'est là que vous sortez hors du camp, comme Christ le fit jusqu'au calvaire, pour souffrir l'opprobre et l'indignité de la croix. Heureux l'homme qui m'écoute, veillant chaque jour à mes portes, attendant au poteau de mes entrées, car quiconque me trouve, trouve la vie, et il obtiendra la faveur de l'Éternel. Prove 8:34-35 à propos des réunions de culte, par George Fox concernant les réunions silencieuses extraits du vol. 4 The Works of George Fox, Doctrinal Books. Si le but de toute parole est de conduire à la vie, d'y marcher, de la posséder, d'y vivre et d'en jouir, et de sentir la présence de Dieu. Et cela est dans le silence, non dans la part errante, tourbillonnante et tempétueuse de l'homme ou de la femme. Car dans le silence, le troupeau est couché au milieu du jour, se nourrit du pain de vie et boit aux sources de la vie, sans prononcer de paroles. Car les paroles proclamées visent à amener les gens à l'esprit, confessant la bonté et l'amour de Dieu, mais seulement lorsqu'ils sont mus par le Dieu éternel et par son esprit. Tous les esprits voraces qui sont éloignés du témoignage de Dieu en eux-mêmes ne peuvent rester tranquilles, ne peuvent être silencieux, c'est pour eux un fardeau. Ils ne peuvent demeurer chez eux, dans leur propre maison, mais ils sont des chasseurs devant le Seigneur comme Nimrod, premier bâtisseur de Babel. Mais Dieu les confondit, car ils sortirent de l'immobilité et de la quiétude, comme les Juifs qui s'écartèrent de la loi de Dieu, alors ils coururent au dehors, changèrent leur voie, et ainsi ne virent pas leur salut. Les chrétiens apostats font de même, qui sont devenus intérieurement voraces consumés loin de l'Esprit de Dieu. Ils se sont éloignés du silence et de l'immobilité, et de l'attente de Dieu pour que leur force soit renouvelée, et ainsi ils ont dégénéré en sectes entre eux, Ils ont les paroles du Christ et des apôtres, mais intérieurement ils sont voraces loin de la vie tranquille. Dans la vie tranquille, la communion est atteinte dans l'Esprit de Dieu, dans la puissance de Dieu, qui est l'Évangile, où se trouve la communion, quand aucune parole n'est prononcée. George Fox, extrait de « Une épître à tous les peuples sur la terre », extrait du vol 4 The Works of George Fox, Doctrinal Books E sur le sujet de la barre latérale, pourquoi le silence. C'est pourquoi, amis tous, vous qui êtes venus témoigner du Saint-Esprit et de la foi, en lesquels résidant la vraie prière et l'édification, qui donne la victoire sur le monde, don de Dieu, en lesquels vous plaît à Dieu, gardez vos réunions. Réunis ensemble, parlez selon que vous êtes poussés, car ils parlaient comme ils étaient mus par le Saint-Esprit et comme l'Esprit leur donnait l'expression. Ils priaient par l'Esprit, et ils venaient au secours de leurs infirmités, car eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il fallait demander dans leur prière. Mais celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, qui enseigne comment et quoi prier. Dans le silence se trouve la naissance, née de l'Esprit, que Dieu, le Père des Esprits, entend, et ce n'est pas cette naissance née selon la chair, mais elle est persécutée par cette naissance-là. Or ceux qui s'élèvent au-dessus de leur mesure de l'Esprit de Dieu manifesté en eux se glorifient des expressions, se glorifient des mots, et s'en nourrissent plus que de la vie. Ils se complaisent dans les mots et les méthodes, et dans la curiosité du discours. Ces gens qui se glorifient de répéter des paroles sont offensés par l'attente silencieuse de Dieu, qui regarde aux expressions élevées et en est plus rempli que de la vie. Elle nourrit la naissance qui doit être silencieuse, celle qui est née de la chair. Ainsi, il y a un temps pour se taire. Voici la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, afin que vous veniez tous à ce que Dieu manifeste en vous. Cela vous fera voir la naissance qui doit être silencieuse, et vous conduira à être silencieux et à attendre pour recevoir l'enseignement de Dieu. Alors, ce qui est dit, vous pourrez le déclarer de la part du Seigneur du ciel très haut. Or, celui qui a un psaume reçu dans l'esprit, non lu dans la Bible, que celui qui la chante, et qu'il chante dans l'esprit et avec intelligence. Celui qui chante dans l'esprit et prie dans l'esprit, selon que l'esprit lui donne l'expression, est dans la naissance qui fait taire la naissance de la chair. Cela s'adresse à tous ceux qui apprennent l'attente silencieuse de Dieu et la réunion silencieuse, car nul ne viendra jamais à Dieu, lui qui est sur la terre, que s'il vient à ce qui est de Dieu en lui, la lumière dont Christ l'a éclairé. Et c'est cela qui doit guider l'esprit de chacun vers Dieu, et l'amener à attendre Dieu pour recevoir l'esprit de Dieu, et l'esprit conduit à attendre Dieu dans le silence et à recevoir de Dieu. Beaucoup de prophètes et d'hommes saints de Dieu s'assirent souvent longtemps, attendant Dieu, et dirent « Heureux tous ceux dont l'esprit est fixé sur Dieu, ils seront gardés dans une paix parfaite. » Et « Mon âme, attends-toi à Dieu, et les douze héritent la bénédiction, et vous trouverez davantage de force, de vertu, d'eau de vie, ainsi que la miséricorde du Seigneur et la présence du Seigneur Dieu, à mesure que vous demeurez tranquille. » L'apôtre a dit « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Notez, l'édification est dans ce qui est saint, dans la sainte foi, et la prière par le Saint-Esprit. Maintenant il parle de certains qui prononcent de grandes paroles enflées, mais vivent eux-mêmes dans l'hypocrisie, et se sont engagés dans les voies de Caïn et de Balaam. Ce sont ceux-là qui doivent connaître un temps de silence, car ils n'édifient pas parmi les saints, car ce sont des pierres de Babylone. Ainsi tous ces grands parleurs qui prononcent les paroles des Écritures, mais non par le Saint-Esprit qui les a données, sont hors de cet esprit dans lequel les saints prient, et ainsi ceux qui prient hors du Saint-Esprit sont une abomination, ils doivent se taire. Tenez-vous à ce qui est de Dieu en vous, qui vous conduira vers Dieu, lorsque vous vous tenez en repos de vos propres pensées et imaginations, et des désirs et conseils de votre propre cœur, et de vos mouvements et de votre volonté. Lorsque vous vous tenez séparé de tout cela, attendant le Seigneur, votre force est renouvelée. Celui qui attend le Seigneur sent son berger, et il ne manquera de rien. Ce qui est de Dieu au-dedans de chacun, c'est ce qui les rassemble pour attendre Dieu, ce qui les amène à l'unité, ce qui unit leur cœur vers Dieu. Ainsi, lorsque cela met en mouvement, il ne faut pas l'éteindre lorsqu'il pousse à prier ou à parler, car là est la puissance du Seigneur. C'est le bras du Seigneur, la domination, la victoire sur la mort. Et tous les enseignants, et les gens sur la terre qui ont tenu le peuple éloigné de la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, de ce qui peut être connu de Dieu manifesté en eux, ce sont ceux qui ferment le royaume des cieux aux hommes, qui n'y entrent pas eux-mêmes et ne laissent pas les autres entrer. Ce sont ceux qui ont ôté au peuple la clé de la connaissance, de sorte que ni eux ni le peuple ne pouvaient entrer dans les Écritures, ni dire ce que les prophètes voulaient dire, ni ce que Christ ni les apôtres voulaient dire, mais ils crêlaient tous au sujet de la lumière, au sujet de la porte. Car la lumière est la porte, la lumière est la puissance qui éclaire tout homme venant au monde, afin que tous par la lumière puissent croire. Celui qui croit est entré dans son repos, a cessé ses propres œuvres comme Dieu a cessé les siennes, et il a le témoignage en lui-même. Et celui qui est né de Dieu vainque le monde, il ne se hâte pas. Ici, il connaît une réunion silencieuse et l'attente de Dieu, et il sait que tous les peuples de la terre, s'ils viennent à la lumière dont Christ Jésus les a éclairés, doivent déposer leur couronne aux pieds de Christ, et que leur paix doit être ôtée de la terre, et ils doivent entrer en Christ l'alliance de paix de Dieu, de lumière entre Dieu et l'homme. Alors toute chair doit se taire devant le Seigneur, ainsi la vie de Dieu vient pour guider. Et vous tous qui êtes dans votre propre sagesse et dans votre propre raison, cela vous dit que l'attente silencieuse de Dieu est une famine pour vous. C'est pour vous une vie étrangère que d'en venir au silence, vous devez entrer dans un monde nouveau. Maintenant vous devez mourir, dans le silence, à la sagesse charnelle, à la connaissance, à la raison et à l'intelligence. Ainsi vous venez à sentir ce qui vous amène à attendre Dieu, vous devez mourir à l'autre, ce qui vous fait sentir la puissance d'une vie sans fin et vous amène à la posséder. Et dans l'attente silencieuse de Dieu, vous venez à recevoir la sagesse d'en haut, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, et elle donne une intelligence et une raison qui distinguent de la bête. Et la vie de Dieu en vous, qui vous amène à attendre Dieu, qui vous donne la vie, vous amène à connaître Dieu, et connaître Dieu et Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et pour vous, voici la parole du Seigneur Dieu. George Fox de la lettre 117. Gardez vos réunions, et vous sentirez la semence se lever, quand bien même aucun mot ne serait prononcé parmi vous. De la lettre 122. Réunissez-vous donc et attendez Dieu, s'il n'y a pas un mot, je vous en donne l'ordre. Gardez-vous de la contention, car là vous vous élevez au-dessus de ce qui est de Dieu dans la conscience, et ainsi vous sortez de la crainte du Seigneur. De la lettre 16. Réjouissez-vous donc, vous les simples qui aimez la simplicité, et réunissez-vous et attendez ensemble pour recevoir force et sagesse du Seigneur Dieu, et en vous détournant du péché et du mal, vous pourrez parler à la louange du Seigneur. Et réunis et attendant dans sa puissance que vous avez reçue, employez-la pour faire croître en toute chose la mesure que Dieu vous a donnée, car vous n'améliorez jamais votre mesure tant que vous vous appuyez sur quelque chose de visible hors de vous. Mais lorsque vous venez seul à attendre Dieu, chacun aura une récompense selon ses mérites, et chacun son denier, vous qui êtes appelés dans la vigne pour y travailler. De la lettre 286. Lorsque vous êtes réunis ensemble au nom de Jésus, votre Sauveur, que vos pensées se portent au-dessus de tout vers lui, hors de toutes choses qui changent, périssent et meurent d'elles-mêmes, et se corrompront et qui sont visibles vers lui qui est invisible, le Seigneur Dieu et son Fils Jésus-Christ, afin que vous le voyiez et le sentiez parmi vous, et dans vos réunions dans sa vie, sa lumière, sa puissance et son esprit, et afin que vous sachiez que Dieu est qu'il récompense tout ce qui le cherche diligemment, et afin de connaître. Et ce qui donne la connaissance de lui, c'est la lumière qui brille dans le cœur, sur le visage de Jésus-Christ, et ainsi le voir dans toutes vos tribulations et afflictions. Et savoir que Dieu est présent, observant toutes vos actions faites dans vos corps, ainsi que votre consentement à vos mauvaises pensées, convoitis ou mouvements, les pensées de ce que vous direz ou ferez, ou des mouvements que vous n'avez pas accomplis au dehors. Mais si vous consentez à les faire dans votre esprit ou votre cœur, le Seigneur les voit comme faits là, bien qu'ils ne soient pas faits. De la lettre 43. Et que tous se réunissent partout, et dans vos réunions attendez le Seigneur, et prenez garde de former des paroles, mais soyez attentifs à la puissance, et connaissez ce qui est éternel, ce qui vous gardera tous dans l'unité, marchant dans l'esprit, et vous fera voir le Seigneur près de vous et parmi vous. De la lettre 248. Gardez vos réunions dans la puissance du Seigneur Dieu qui vous a rassemblés, et que nul n'éteigne l'esprit ni ne méprise la prophétie, mais maintenez votre témoignage en public et en privé. Ne laissez pas fermer la bouche des enfants et des nourrissons, ni la semence dans l'homme ou dans la femme, mais que tous soient vaillants pour la vérité du Seigneur sur la terre. De la lettre 149. Réunissez-vous, et dans la mesure de l'Esprit de Dieu attendez, afin que par lui, tous vos esprits soient guidés vers Dieu, pour recevoir de Dieu la sagesse, afin que vous veniez tous à savoir comment vous pouvez marcher vers lui dans sa sagesse, afin que cela soit justifié en vous, et que vous y soyez gardés jusqu'à Dieu et glorifiés. Et, amis, réunissez-vous et connaissez-vous les uns les autres en ce qui est éternel, ce qui était avant que le monde fût. Car se connaître les uns les autres seulement dans la lettre et la chair vous distingue peu des bêtes des champs, car ce qu'elles connaissent, elles le connaissent naturellement. Mais vous connaître, tous les uns les autres dans la lumière qui était avant que le monde fût, cela vous distingue des bêtes des champs et de la connaissance du monde, et vous amène à vous connaître les uns les autres dans la semence élue qui était avant que le monde fût. Et si vous vous détournez de cette lumière, vous devenez étrangers, et ainsi négligeant les réunions, vous vous refroidissez, et vos esprits se tournent vers la terre et deviennent las et paresseux, insouciants, lourds, abrutis, engourdis et morts. Vous pouvez alors parler de choses qui furent autrefois ouvertes par la lumière, bien que maintenant vous vous en soyez détournés. Mais avec la lumière où est l'unité, tout cela est condamné. Dans cette lumière est la communion avec le Fils, d'où vient la lumière, qui maintient la vivacité, qui garde de la paresse et de toutes les choses mentionnées ci-dessus, qui sont contraires à la lumière, et celui qui s'en détourne s'y tourne. C'est pourquoi, dans la lumière, attendez et marchez, afin d'avoir communion les uns avec les autres. Je vous en conjure tous, en présence du Dieu vivant, qu'aucun de vous ne se glorifie au-dessus de sa mesure de lumière, si vous le faites, vous serez rudoyés, car de tels tombent dans la présomption, et ainsi dans le blâme. Or ce blâme, cet esprit ne le supportera pas patiemment, mais il se dresse dans la présomption, et cela doit être condamné par la lumière, dans laquelle est l'unité, qui garde du désespoir et de la présomption. Ceux qui s'éloignent de la lumière, l'ennemi entre en eux, et l'envie et le meurtrier se lèvent au-dedans et tuent l'homme, et un tel n'a pas la vie éternelle demeurant en lui, car il s'est détourné de la lumière qui vient de Christ Jésus, la vie. Tous ceux qui demeurent dans la lumière qui vient du Christ viennent à recevoir la vie éternelle. Et ici l'amour de Dieu est répandu dans le cœur, et demeurant dans l'amour, vous demeurez en Dieu, et de la vie coule l'amour éternel, lequel vient du Père de la vie, dont l'amour ne change pas. Ainsi avec la lumière, vous y demeurant, elle qui conduit à la vie, vous viendrez à témoigner de la foi sans feinte, de l'humilité sans feinte, et de la foi qui agit par l'amour, qui purifie le cœur, en attendant dans la lumière qui vient de Christ Jésus, cela est reçu de lui. Car par la lumière l'homme se voit lui-même, laquelle lumière vient du Christ, qui est l'auteur et le consommateur de sa foi, et cette foi lui donne la victoire sur ce qu'il voit être contraire à la lumière et à la parole. Et c'est là l'unique foi, et ici le premier Adam et le second Adam sont connus et vus. De la lettre 365, et amis, après que vos réunions ont été établies et affermies par la puissance du Seigneur, si vous les changez sans le consentement des amis dans la puissance du Seigneur astérisque, cela fait naître et nourrit le mécontentement. C'est pourquoi gardez-les après qu'elles sont établies, dans la puissance du Seigneur et vous y étant établis, sur Christ, le Saint Rocher et le fondement de Dieu, qui demeure ferme. Et dans toutes vos réunions, s'il survient quelque différente entre frères et frères, ne vous reprochez pas l'un l'autre en réunion, mais parlez-vous l'un à l'autre entre vous, comme Christ l'ordonne, et alors vous pourrez prêcher librement l'évangile de paix, et dire la vérité dans son amour, comme elle est en Christ Jésus. Et c'est là la meilleure voie, afin que rien ne soit vu dans vos réunions que la vie, la vérité et la paix, afin que le serpent dont la nourriture est la poussière n'en trouve point dans vos réunions, et qu'il n'y ait personne pour éteindre ou maltraiter la puissance ou l'esprit, ni personne pour aller au-delà de son mouvement. Car si vous le faites, vous attirez sur vous et sur d'autres des troubles et des fardeaux, et vous sortirez de sorte que vous aurez peine à rentrer. Soyez donc sages dans la sagesse céleste de Dieu, pour être réglés par son esprit d'intelligence à la gloire de Dieu, et pour la consolation et l'édification de son peuple, afin que vous sachiez tous comment vous conduire dans l'Église de Dieu, à la gloire de Dieu. De la lettre 66, et vivez tous en paix, dans l'amour, dans la vie et dans la puissance du Seigneur Dieu, et gardez vos réunions, chacun de vous attendant sur lui dans la puissance de Dieu, afin qu'en elle vous ayez unité avec Dieu, le Père et le Fils, et les uns avec les autres. Et, chers amis, que la sagesse vous guide dans la patience, et ne disputez avec personne dans les réunions, mais demeurez dans la puissance du Seigneur Dieu, qui peut porter et supporter toutes choses. Et n'engendrez point de crêle parmi les amis, mais vivez dans ce qui fait la paix, l'amour et la vie, où l'édification est connue. De la lettre 83, chers amis, dans la vérité éternelle de Dieu, vous dont l'Esprit, par la lumière de Jésus-Christ, est tourné vers Dieu, réunissez-vous souvent dans la crainte du Seigneur, et soyez attentifs à la lumière, afin qu'avec elle tous vos esprits soient maintenus vers Dieu, d'où elle vient. Et dans toutes vos réunions, attendez humblement dans sa crainte, afin que vous veniez à connaître la vie et la puissance de la vérité les uns dans les autres. Et vous tous que le Seigneur a établis surveillants de son Église en vos divers lieux, soyez fidèles au Seigneur et veillez sur le troupeau du Christ avec toute diligence. Vous qui êtes forts, veillez sur les faibles et ranimez ce qui est pur les uns dans les autres, veillez à ce que toutes vos réunions soient tenues dans l'ordre. De la lettre 320 or. Lorsque les femmes sont réunies dans la lumière et dans l'Évangile, la puissance de Dieu, certaines ont une capacité et une intelligence plus grande que d'autres femmes, et sont capables d'informer, d'instruire et d'exhorter les autres à la diligence, à la vertu, à la justice, à la piété, et dans l'amour et la sagesse de Dieu d'informer et de réformer leur famille, et d'aider celles qui ont des capacités et des compréhensions plus faibles dans la sagesse de Dieu, afin qu'elles portent du fruit en toute bonne œuvre et toute bonne part. De la lettre 178, si quelque chose est dit dans une réunion que vous ne puissiez supporter, parlez-en à ceux qui sont concernés, entre-vous, après la fin de la réunion, car si des gens du monde s'y trouvent, cela peut leur donner occasion de reprocher la vérité. Car la sagesse conserve dans la paix, fait la paix, préserve hors du contraire, et vainque par la sagesse et l'amour, et répond au témoignage par la vie, et ainsi est la l'unité, et celle-ci a le royaume. Anecdote, ne limitez pas l'esprit à ce qui est attendu. En 1702, John Salkeld, un ministre quaker itinérant en Amérique, étant assis en silence, sentit l'impulsion de faire un bruit soudain en frappant le sol de sa canne, et immédiatement après il rendit ce bref témoignage « Résiste au diable pour cette fois, et il ne te tourmentera plus ». Après la réunion, quelques amis âgés exprimèrent leur mécontentement à propos de sa conduite, qui leur semblait étrange, sinon désordonnée. Il répondit « Si jamais j'ai connu la commission divine de prêcher, je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui est en obéissance au commandement de mon maître, et là je dois en rester ». Environ un an plus tard, il rencontra un homme qui lui rappela ce qui s'était passé dans cette réunion, disant qu'il était la personne à laquelle ce service singulier était destiné, et que cela avait été le moyen de le sauver d'une mort terrible. Quelque temps avant cette réunion mémorable, il avait été dans un état d'esprit désespéré, et ce matin-là était sorti avec une corde dans sa poche, ayant l'intention de mettre fin à ses jours. Comme il approchait de la maison de réunion, il décida d'entrer et de s'asseoir avec les amis, pensant qu'il mettrait ensuite son dessein à exécution. Le coup soudain de la canne éveilla son attention, et les paroles encourageantes de John Salkeld lui permirent de résister à la tentation. Il trouva la vérité de la promesse confirmée dans son expérience, car jamais par la suite il ne fut tenté de la même manière. De la lettre 251 et aussi ceux qui ne veulent pas aller aux réunions, écrit contre ceux qui y vont, et disent que ce sont des formes humaines, tantôt ils ne veulent pas donner la main, tantôt ils gardent leur chapeau lorsque les amis prient, et pourtant secrètement, ils peuvent aller dans de mauvaises maisons, comme plusieurs l'ont fait. De ces choses abominables, il faut les exhorter et les reprendre, de la lettre 256. Et si quelque faiblesse apparaît chez quelqu'un dans vos réunions, il n'appartient à personne de l'étaler et de la divulguer, ce n'est pas la sagesse qui fait ainsi, car l'amour couvre une multitude de péchés, et l'amour conserve et édifie le corps, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, car Dieu est amour, et l'amour ne s'irrite pas facilement, c'est pourquoi garder la loi de l'amour, pour abaisser ce qui s'irrite si aisément, car ce qui s'irrite aisément a des paroles, qui sont pour la condamnation. Que la loi de l'amour soit donc parmi vous, elle qui ne s'irrite pas facilement, et cette loi de l'amour étant parmi vous, elle abattra ce qui s'irrite ainsi, et ses paroles, et ainsi le corps s'édifie lui-même dans l'amour. De la lettre 257, et amis, prenez tous garde de dormir dans les réunions, et d'abrutissement et de lourdeur, car c'est une chose sans saveur que de voir quelqu'un assis, la tête ballottante, dans une réunion, et ainsi perdre le sentiment du Seigneur. Et c'est à la fois une honte et une tristesse, et cela afflige les droits et les vigilants qui attendent le Seigneur de voir de telles choses, et pour les prêtres, le peuple et d'autres qui viennent dans vos réunions et vous voient, vous qui vous assemblez pour adorer Dieu, et vous réunir pour l'attendre et avoir communion dans son esprit, vous voir assis à somnoler, c'est une honte et une chose inconvenante. Soyez donc soigneux et vigilants, et que cela soit corrigé, et soyez attentifs à la lumière et à la puissance de Christ Jésus en vous, qui condamnera toutes ces choses, et vous en fera sortir et vous élèvera au-dessus, et vous rendra vigilants les uns à l'égard des autres pour votre bien. Bref exposé concernant les réunions silencieuses, leur nature, leur usage, leur intention et leurs bienfaits, par Isaac Pennington. Ceci est un grand mystère, caché à l'œil de l'homme qui a fui la vie intérieure pour se livrer à des observances extérieures. Il ne peut voir ni que cela est requis par le Seigneur de son peuple, ni qu'il y ait là une édification intérieure ou un bénéfice. Mais pour l'esprit qui est attiré vers l'intérieur, le bénéfice est évident, et par là, l'édification dans la vie de Dieu et la communion intérieure les uns avec les autres se ressentent doucement. Un précieux rafraîchissement de la présence du Seigneur est reçu par ceux qui, seuls au-dedans, l'attendent, selon les directions et les exigences de son Saint-Esprit. Or, pour expliquer un peu la chose au cœur droit, si le Seigneur le veut. Après que l'Esprit est, dans une certaine mesure, tourné vers le Seigneur, que ses vivifications sont ressenties, que sa semence commence à se lever et à germer dans le cœur, alors la chair doit se taire devant lui, et l'âme l'attendre, et attendre ses apparitions ultérieures, dans cette mesure de vie qui est déjà révélée. Or, c'est là une grande chose que de connaître la chair réduite au silence, de sentir apaiser les pensées de raisonnement et les discours de l'esprit charnel, et d'attendre la sagesse, la lumière et la direction de l'Esprit de Dieu. Car l'homme doit venir à la pauvreté de soi, à la honte, au néant, au silence de son esprit devant le Seigneur, au dépouillement de toute sa connaissance, de sa sagesse, de son intelligence, de ses aptitudes, de tout ce qu'il est, a fait ou peut faire, hors de cette mesure de vie dans laquelle il doit voyager, afin d'être revêtu et rempli de la nature, de l'esprit et de la puissance du Seigneur. Or, dans cette mesure de vie qui est du Christ, et dans laquelle Christ est et apparaît à l'âme, se trouve la puissance de vie et de mort, puissance de mettre à mort la chair, et puissance de vivifier pour Dieu, puissance d'amener l'âme à cesser ses propres œuvres, et puissance d'opérer en l'âme et pour l'âme ce que Dieu requiert et ce qui est agréable à ses yeux. Et en cela, il faut attendre Dieu et l'adorer continuellement, tant en privé qu'en public, selon que son esprit attire et enseigne. Car le Seigneur exige de son peuple non seulement de l'adorer à part, mais de se réunir pour l'adorer, autant et selon les attirances de son esprit. Ceux qu'il enseigne n'osent pas abandonner leurs assemblées, comme c'est la manière de quelques-uns, mais ils veillent contre les tentations et les pièges que l'ennemi tend pour les en détourner et pour troubler leur sens, afin qu'ils ne sentent pas les attirances du Père à condition qu'il y ait des personnes avec lesquelles partager son espérance et sa foi pour se réunir. Telle est la manière de leur culte. Ils doivent attendre le Seigneur, se réunir dans le silence de la chair, et guetter les mouvements de sa vie et les jaillissements de sa puissance parmi eux. Et dans les jaillissements de cette puissance, ils peuvent prier, parler, exhorter, reprendre, chanter ou se lamenter, etc., selon que l'Esprit enseigne, requiert et donne l'expression. Mais si l'Esprit ne demande pas à l'un de parler ou de donner l'expression, alors chacun doit demeurer immobile à sa place, dans sa place céleste, je veux dire, sentant sa propre mesure, s'en nourrissant, recevant du Seigneur, dans son esprit, ce que le Seigneur donne. Or, en cela il y a édification, édification pure, édification précieuse, l'âme qui attend ainsi, et par là, particulièrement édifiée par l'Esprit du Seigneur à chaque réunion. Et alors aussi la vie de l'ensemble est ressentie dans chaque vase qui est tournée vers sa mesure. De sorte que, comme la chaleur de la vie dans chaque vase ne réchauffe pas seulement le particulier, mais qu'ils sont comme un tas de charbon frais et vivant, se réchauffant les uns les autres, ainsi une grande force, fraîcheur et vigueur de vie affluent en tout. Et si certains sont chargés, tentés, battus par Satan, courbés, accablés, languissants, affligés, dans la détresse, etc. L'état de cela est ressenti dans l'esprit, et des cris secrets, ou ouverts selon qu'il plaît au Seigneur, montent vers le Seigneur pour eux. Et bien des fois ils trouvent aisance et soulagement, par quelques mots prononcés, ou sans parole, si c'est la saison de leur aide et de leur délivrance auprès du Seigneur. Quant aux réunions, absolument silencieuses, où il y aurait une résolution de ne pas parler, nous ne les reconnaissons pas, mais nous attendons le Seigneur, soit pour le sentir dans des paroles, soit dans le silence de l'Esprit sans parole, comme il lui plaît. Et ce que nous visons, et ce à quoi l'Esprit du Seigneur nous instruit au sujet des réunions silencieuses, c'est que la chair, en chacun, soit maintenue silencieuse, car il n'y a point d'édification si ce n'est dans l'esprit et la puissance du Seigneur. Or, il y a divers états de personnes, certaines sentent peu la présence du Seigneur, mais sentent les tentations et les pensées, avec bien des divagations et des errances de l'esprit. Celles-ci ne sont pas encore familières avec la puissance, ou du moins n'en connaissent pas la domination, mais ressentent plutôt la domination du mal sur le bien en elles. Et c'est un état pénible, de travail et de deuil, et les réunions, pour de telles personnes, bien des fois, peuvent leur sembler plutôt pour le pire que pour le mieux. Pourtant, même celles-ci, se détournant autant que possible de ces choses, et s'attachant, ou du moins désirant en vérité de cœur s'attacher à ce qui les réprouve ou témoigne contre elles, trouvent l'acceptation du Seigneur au-dedans, et continuant d'attendre dans cette peine et cette détresse, demeurant assidues aux réunions, dans la crainte et la soumission au Seigneur qu'il exige, bien qu'avec peu de bénéfices apparents, elles recueillent un bénéfice immédiat et caché, et en recueilleront plus clairement et manifestement ensuite, à mesure que le Seigneur consume. Or, pour prouver que le Seigneur requiert ces réunions silencieuses, ou des réunions ainsi silencieuses, cela peut apparaître ainsi. Dieu doit être adoré en esprit, dans sa propre puissance et sa propre vie, et cela est à sa disposition. Son Église est une assemblée dans l'esprit. Si quelqu'un y parle, il doit parler comme l'oracle de Dieu, comme le vase par lequel Dieu parle, comme la trompette par laquelle il donne le son. Il faut donc attendre en silence jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur pousse à parler et qu'il donne aussi les paroles à prononcer. Car l'homme ne doit pas dire ses propres paroles, ni selon sa propre sagesse ou son propre temps, mais les paroles de l'Esprit, dans la sagesse et le temps de l'Esprit, c'est-à-dire quand il met en mouvement et donne à parler. Et puisque l'Esprit nourrit intérieurement lorsqu'il ne donne pas de parler par des mots, il faut attendre et recevoir le sens intérieur et la nourriture intérieure, comme ils étaient donnés lorsqu'il n'y avait pas de paroles. Oui, le ministère de l'Esprit et de la vie est plus proche et plus immédiat sans parole qu'avec des paroles, comme cela a souvent été ressenti et fidèlement attesté par de nombreux témoins. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas monté au cœur de l'homme de savoir comment et quelle chose Dieu révèle à ses enfants par son esprit, lorsqu'ils l'attendent dans sa pure crainte, et l'adorent et conversent avec lui en esprit, car alors la source du grand abîme est décelée, et les sources éternelles donnent assurément l'eau pure et vivante. Et extrait de Babylone la Grande de Pennington, ceci est une vérité permanente, tout ce qui, en matière de religion et de culte, n'est pas de l'Esprit de Dieu, est de l'Esprit de l'Antéchrist. Tout ce que l'Esprit de l'homme a inventé ou imité n'est pas la chose elle-même, n'est pas le vrai culte, car le vrai culte est seulement et continuellement dans l'esprit, et jamais hors de l'esprit. La vraie prière est dans l'esprit, le vrai chant dans l'esprit, la vraie prédication dans l'esprit, tout ce qui est hors de cela est de l'antéchrist en l'homme. C'est pourquoi renoncez à toute votre religion, à votre connaissance, à votre culte, à vos pratiques qui sont hors de l'esprit, et retournez au Seigneur, et attendez qu'il relève en vous cette semence qui autrefois commença à germer mais qui maintenant est tuée, et gît dans la mort et la captivité sous tout cela, et la partie terrestre sur laquelle repose toute cette religion et ses pratiques couvre son sang, de sorte que vous ne pouvez voir comment vous avez tué, et tué chaque jour le juste. De la lettre 299 de George Fox, nous apprenons que certains, qui professent la vérité parmi vous, ne tiennent pas vos réunions aussi assidûment qu'ils le devraient, et que, le premier jour, vous n'êtes que peu nombreux à vous réunir. Et la raison en est que, les premiers jours, certains d'entre vous écrivent et mettent en ordre leurs comptes, de sorte que vous n'avez pas le temps d'aller aux réunions et de les fréquenter. Vraiment, amis, c'est une mauvaise odeur qui vient jusqu'ici en Angleterre, et cela montre que vous vous occupez plus de vos propres affaires que de celles du Seigneur, et des choses de cette vie plus que des choses qui concernent la vie sans fin, lesquelles devraient être cherchées d'abord, si vous désirez être béni et prospéré. Et si vous ne le faites pas, vous deviendrez relâché et vous vous dessécherez, et vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu avec vous, vous ne pouvez l'attendre. C'est pourquoi, vous qui portez le nom d'amis de Dieu et de la vérité, gardez diligemment vos réunions ensemble le premier jour, afin que la puissance du Seigneur s'éveille parmi vous. Car si vous ne tenez pas vos réunions le premier jour de chaque semaine, vous êtes pire que le monde, qui se réunit dans leurs églises à clocher au lieu de culte, vous qui préférez vos propres affaires à celles du Seigneur. Le Seigneur, dis-je, ne vous fera pas prospérer ainsi dans ses affaires. Et c'est pourquoi je le redis, au nom de Christ Jésus, gardez vos réunions, vous qui êtes rassemblés en lui. Et qu'il y ait des réunions les jours de semaine, et aussi des réunions d'hommes, pour veiller à ce qu'il ne manque rien parmi vous, une fois par quinzaine, et de même une réunion de femmes, quand bien même vous ne seriez que quelques-unes. Car vous qui avez vu l'ordre de la vérité en Angleterre et ailleurs, comment pouvez-vous sortir de sa pratique sans devenir sauvage et vous dessécher? Ainsi, hommes et femmes, chacun à sa place distincte, peuvent être des aides dans le gouvernement, dans la semence de vie et dans la sagesse de Dieu, par laquelle toutes choses ont été faites, et dans l'Évangile, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût, afin que vous puissiez sentir la présence du Seigneur avec vous. Et que tous les amis puissent être invités aux réunions, et que vous soyez de bons exemples et modèles pour tous sur l'île, dans des conduites et des actes justes, dans les poids et les mesures. Et tenez-vous à un langage saint, et à l'honneur que vous avez reçu d'en haut, afin que vos vies et vos conversations prêchent en vertu, justice et sainteté, afin que Dieu soit glorifié par vous et parmi vous tous, et que vous soyez des modèles de sainteté et de vérité, comme vous attendez la bénédiction de Dieu en, avec et parmi vous. Et ne devez rien à personne sinon l'amour. Cherchez donc, d'abord le royaume de Dieu, et demeurez-y grec, alors toutes les choses extérieures afflueront vers vous, et il n'en manquera point, si vous jouissez de Dieu, qui soutient tout par sa parole et sa puissance, et qui donne l'accroissement de toutes choses. Veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous aucun mauvais exemple, et qu'aucun tel mauvais bruit ne soit entendu de vous dans la vieille Angleterre. Et quand vous aurez établi vos réunions du premier jour et vos réunions hebdomadaires, ainsi que les réunions d'hommes et de femmes dans la puissance de Dieu, qui vous préservera dans la vérité et la justice, veillez à ce que rien ne manque parmi vous. De la lettre 131 et tous les amis partout, prenez garde à la paresse et au sommeil dans vos réunions, car ce faisant vous serez de mauvais exemples pour les autres, et vous vous nuirez à vous-même et leur nuirez. Et que tous prennent garde d'aller de lieu en lieu pour exercer un ministère, sinon quand vous êtes mû par le Seigneur Dieu, ou pour parler dans les réunions, ou ailleurs, car voyager ainsi est dangereux. Cela tend à les enfler lorsqu'ils vont parmi des réunions établies qui sont établies. Car il y a une différence entre les amis allant dans le monde et venant parmi ceux qui sont venus aux réunions silencieuses pour s'y nourrir, car ce qui peut être de saison pour le monde peut ne pas l'être pour eux. De la lettre 353, et maintenant le Seigneur a rassemblé son peuple, par sa puissance, dans le même esprit que celui dans lequel étaient les apôtres et les églises au temps primitif. Et quoi quant au corps ou à la chair, ils soient absents, les hommes se réunissant dans une salle et les femmes se réunissant dans une autre, oui, quand bien même ils seraient aussi éloignés l'un de l'autre que l'aile de l'ouest, ou le nord du sud, ils sont pourtant présents en esprit, se réjouissant et contemplant par l'esprit l'ordre spirituel. Et cela, je le redis, n'est point une séparation, quoiqu'ils soient absents quant au corps ou à la chair, ils sont présents en esprit et avec l'esprit contemplent l'ordre spirituel. Et ce n'est pas une forme extérieure imposée, un ordre ou une prescription, comme certains l'imaginent dans leur ignorance. Mais ceux qui disent et prescrivent que les hommes et les femmes doivent se réunir tous ensemble extérieurement, dans une présence corporelle, dans une seule salle, sinon ce serait une séparation, je dis que c'est une forme extérieure, un ordre extérieur, une imposition et une prescription. Et ceux qui l'exigent avec âpreté ne connaissent pas l'ordre spirituel. Oui, je dis que quand bien même tous les hommes et toutes les femmes du monde pourraient se réunir extérieurement ensemble, s'ils ne sont pas dans la puissance et l'esprit dans lesquels étaient les apôtres. Mais Dieu Tout-Puissant fait sortir son peuple, par son Fils Jésus-Christ et par la même puissance dans laquelle étaient les apôtres, de cette séparation et de cette apostasie d'avec l'esprit des apôtres, qui a commencé au jour des apôtres, pour les amener dans le même esprit que celui dans lequel étaient l'Église et les apôtres au temps primitif. Et quoique absents quant au corps ou à la chair, ils sont présents en esprit voyant et contemplant dans l'esprit l'ordre spirituel et la fermeté de leur foi divine, dont le Christ le second Adam. Que nul donc ne vous séduise par des paroles flatteuses en vous détournant de cet ordre spirituel, de cette communion fraternelle et de cette unité. Et encore l'apôtre a dit, « Car moi, en vérité, quoique absent de corps, je suis présent en esprit, et j'ai déjà décidé et rendu jugement, comme si j'étais effectivement présent, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur l'homme qui a commis un tel acte. » Il y avait donc ici une vue spirituelle et un jugement spirituel, oui, un jugement, quoique absent de corps, par une vue spirituelle sur ceux qui ne marchent pas dans l'esprit, mais marchent en dehors de son ordre. Un corps 5, 3, 4 et ceci s'adresse à ceux qui ont l'esprit tourné vers les choses spirituelles, qui peuvent juger de ces choses, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et le Seigneur maintenant par son Esprit sépare ses fils et ses filles de l'apostasie et du péché, lesquels se sont séparés de l'Esprit dans lequel étaient les apôtres, afin qu'ils puissent se contempler l'un l'autre avec joie et consolation par l'Esprit, dans l'ordre spirituel, la communion fraternelle et l'unité, quoique absent quant au cas. Et aussi l'apôtre a dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ainsi, quoique absent l'un de l'autre quant au corps juif, grec, esclave ou libre, homme ou femme, ils sont tous un en Jésus-Christ, l'homme spirituel et céleste, et avec l'esprit se réjouissent et contemplent l'ordre spirituel les uns des autres, de sorte que la joie, l'unité et la communion fraternelle se tiennent dans l'esprit de Dieu, et non dans la présence corporelle extérieure de la chair, ni dans la vue charnelle et naturelle. Conservez donc votre ordre spirituel, vous réjouissant dans l'esprit, contemplant votre ordre spirituel et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Et en cela vous serez tous des hommes fermes et des femmes fermes, non ballottés de haut en bas par toute doctrine venteuse, ni par les ruses et les artifices des hommes, mais des hommes fermes et des femmes fermes dans la foi du Christ, comme des arbres de justice, la plantation du Seigneur dont le fruit est pour la sainteté, et dont la fin est la vie éternelle. Et tels ont du fruit sur leurs propres arbres, et de l'eau dans leurs propres puits, et ne sont pas ébranlés par les vents, les orages ni les tempêtes qui peuvent s'élever au-dedans ou au-dehors, mais ils sont fermes et inébranlables, bâtis sur le roc et le fondement de la vie Jésus-Christ. Ainsi comme chacun a reçu le don, qu'il le mette au service des autres, comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. Et c'est là la grâce de Dieu dans laquelle vous tenez ferme, qui vous apprendra à vivre pieusement, justement et sobrement, et apporte le salut, afin non seulement de parler avec piété, mais de vivre avec piété vous gardant dans l'amour de Dieu, et vous édifiant vous-même dans la très sainte foi que vous avez de Jésus-Christ, qui vous rend ferme et inébranlable, venant de celui qui en est l'auteur et le consommateur, et avec l'Esprit de Dieu, dans lequel vous contemplez spirituellement votre ordre spirituel substantiel et ferme, au-dessus de tout. Par cet Esprit, vous voyez tous votre œuvre et votre service pour le Dieu éternel, immortel, de vérité, à qui soit toute gloire, honneur, action de grâce et louange, dans l'Église de Jésus-Christ, à travers tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Tiré de la lettre 137, il vient un jour où certains souhaiteront avoir marché avec sagesse à l'égard des faiblesses les uns des autres, ou des manquements les uns des autres, car que savez-vous de qui pourra tenir debout ou qui pourra tomber au jour de l'épreuve de Dieu? Alors beaucoup, qui ont été instables, souhaiteront avoir gardé leur secret dans leur sein et dans la sagesse de Dieu, avoir cherché à tout restaurer et non à disperser, comme le fait cet esprit qui ne peut supporter ni couvrir les faiblesses les uns des autres, alors qu'ils sont encore dans le désert, où les épreuves sont nombreuses. J'ai vu un grand danger en cela. C'est pourquoi prenez garde à cet esprit qui ne peut se supporter l'un l'autre, ni se pardonner l'un l'autre, car ce qui ne le peut pas découvrira plutôt que de couvrir, et jettera un nuage sur beaucoup, partout où il est reçu, et suscitera le contraire en beaucoup, et voilera les justes peut-être dans des réunions entières, faute de sagesse pour demeurer dans l'esprit doux, qui éprouve tous les esprits et donne une vue claire des choses. Faute de cela, beaucoup peuvent être écartés, et presque jamais restaurés. Tiré de la lettre 173, prenez garde de vous contenter d'une forme, de peur de perdre la puissance, mais demeurez dans la puissance et la semence de Dieu, dans lesquelles vous vivrez dans la réalité. Et prenez garde, dans toute dispute, Beaucoup peuvent être enflés par la victoire et la conquête, puis se réjouir des prophéties et des révélations, et ensuite tomber. Et si des bavards, discoureurs vains viennent, et des crêleurs des gens qui veulent se disputer sur quelque interprétation scripturaire mineure, ne dites pas que la réunion était mauvaise, cela vient d'une nature plaintive hors de la patience et hors de la semence, laquelle supporte toutes choses et endure toutes choses, et tient à baisser ce qui cause l'enflure, les murmures et les disputes. Ce qui suit est l'instruction du Seigneur concernant la responsabilité d'un ancien en matière de discipline, telle qu'elle a été reçue et transmise par William Dewsbury. Ceci est la parole du Dieu vivant à son Église, qu'il a appelée et choisie hors du monde, pour y placer son nom, pour l'ordonner et la guider dans sa pure sagesse, à sa louange et à sa gloire. Lui seul en est digne, Dieu au-dessus de tout, béni éternellement. Quand chaque réunion, particulière des amis, il soit choisi parmi vous un ou deux de ceux qui ont le plus grandi dans la puissance et la vie, et dans le discernement de la vérité, pour prendre soin et charge du troupeau de Dieu en ce lieu-là. Et ceci est la parole du Dieu vivant à vous qui êtes choisis. Veillez sur le troupeau de Dieu, vous à qui est confié la charge et le soin, et prenez-en la surveillance, non par contrainte mais volontairement, non pour un gain honteux mais d'un esprit prêt. Je vous charge et vous commande, en la présence du Dieu vivant, de ne pas dominer en seigneur sur l'héritage de Dieu, mais dans la puissance de l'Esprit, en toute pureté. Soyez des exemples pour le troupeau, et veillez à ce que l'ordre soit gardé dans l'Église, en se réunissant constamment ensemble, selon la règle qui a été donnée, c'est-à-dire une fois par semaine, ou davantage si cela se peut, outre la réunion du premier jour. Et vous devez tenir une réunion générale avec d'autres amis proches de vous, une fois toutes les deux ou trois semaines, selon que le Seigneur l'ordonne et en ouvre la voie. Ne soyez pas néglige ni en arrière, mais fidèle au Seigneur, en profitant de toute occasion pour que les amis se réunissent. Et dans chaque ville où les amis sont dispersés, confiez la charge et le soin à quelques amis qui ont le plus grandi dans la vérité, afin de veiller à ce qu'ils se réunissent pour attendre le Seigneur 3 ou 4 heures, comme le Seigneur l'ordonne, une ou deux soirées par semaine. Et veillez les uns sur les autres avec un œil pur et simple, afin de voir si ceux qui viennent parmi eux marchent avec ordre, selon ce qu'ils professent. Et si certains marchent d'une manière désordonnée, que ceux à qui le soin et la charge sont confiés, ou tout autre qui les discerne et est poussé à leur parler, les traite avec franchise en les reprenant, en s'adressant à ce qui est pur dans la conscience pour les restaurer. Mais s'ils ne se réforment pas, avertissez-en 2 ou 3 autres de ceux qui ont le plus grandi dans la vérité, ou bien, vous à qui la charge et le soin du troupeau sont confiés, avec l'autre qui les a admonestés dans un amour tendre, admonestez-les de nouveau, et avec une parole franche, adressez-vous à ce qui est pur dans leur conscience pour relever le témoin, juger et abattre la tromperie, afin que leurs âmes soient sauvées et leur nudité couverte. Mais s'ils marchent encore dans le désordre, lorsque l'Église s'est réunie, reprenez-les ouvertement, et s'ils ne se réforment toujours pas, mais marchent dans leur souillure, alors, lorsque l'Église s'est réunie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, intimez-leur de se retirer du milieu de vous. Ainsi chassez-les, et n'ayez aucune communion avec eux, pas même de manger avec eux, jusqu'à ce qu'ils se repentent, se tournent vers le Seigneur, et marchent dans l'obéissance à ce qui est pur. S'ils font cela, recevez-les de nouveau, mais s'ils continuent à marcher dans l'entêtement de leur volonté, et ne plient pas devant ce qui est pur dans leur conscience, maintenez-les dehors, afin qu'aucune personne souillée n'habite dans la maison de Dieu. Alors la bénédiction du Seigneur Dieu sera avec vous. Et voici sa parole pour vous. Veillez à ce qu'il n'y ait personne dans un besoin matériel extérieur dans l'Église, et à ce que tous marchent avec ordre dans leur place et leur vocation. Et si une racine d'amertume germe en quelqu'un, causant la discorde dans leurs esprits les uns contre les autres, dès que vous le savez, faites venir ces personnes devant vous et examinez l'affaire strictement, et tenez-vous dans la sagesse et la puissance de Dieu, afin qu'il vous guide pour juger la cause et y mettre fin avec justice. Mais si la cause vous est difficile à discerner, et si la mesure à laquelle vous êtes parvenu ne permet pas de discerner entre les parties, je vous charge et vous commande de ne pas vous hâter dans l'affaire qui est devant vous, pour la régler dans vos esprits hésitants et obscurs, car tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Mais faites venir quelqu'un qui a davantage grandi dans le discernement, afin de juger la cause et d'y mettre fin avec justice. Alors la tromperie sera jugée, la discorde tenue dehors, et l'innocent mis en liberté pour servir le Seigneur. Et votre union sera en Jésus-Christ, où vous porterez du fruit, demeurant en lui, et par son sang vous vaincrez le monde au-dedans de vous et au-dehors, et vous régnerez comme des rois sur la terre. Dans la puissance du Christ, vous commanderez à l'esprit impur, sous toutes ses apparences au-dedans de vous et au-dehors, et il se soumettra à la puissance de Dieu en vous, demeurant en celui qui seul est puissance, et à qui appartient toute gloire à jamais. Que l'Esprit pur du Dieu très haut repose sur vous, qu'il a choisi pour veiller sur son troupeau, et que sa puissante puissance ouvre en vous l'œil pur, pour discerner et séparer entre le précieux et le vil, le saint et l'impur, et qu'il vous pourvoie de courage, d'assurance et de sagesse pour gouverner dans la puissance de son esprit, pour abattre toute tromperie, et pour laver les pieds des disciples, en vous inclinant devant le pur esprit dans sa moindre manifestation, et en y servant, afin de fortifier le désir suscité vers le nom du Seigneur. Alors vous aurez l'unité ensemble dans ce qui est engendré de Dieu, qui règne sur tout, béni éternellement. La sagesse est justifiée par ses enfants, William Dewsbury concernant les réunions d'affaires, les réunions d'hommes, les réunions de femmes, les réunions mensuelles, les réunions des 6 semaines, etc. Extrait du témoignage de la réunion des anciens à Londres, signé par Edward Burroughs. La réunion d'affaires doit se tenir une fois par semaine ou tous les 14 jours, selon que le service et les nécessités de la vérité l'exigent, comme les amis voient raison de l'établir quand et où ils le jugent bon, et venant ensemble avec ordre, non pour passer le temps en discours superflu, inutile et stérile, mais pour procéder dans la sagesse de Dieu, en des choses qui à l'occasion peuvent être suscitées parmi vous pour le service de la vérité et le bon ordre du corps, pour entendre et considérer, et si possible décider lesdits. Mais que toute chose se fasse dans la sagesse, l'amour et la communion de Dieu, avec gravité, patience, douceur, dans l'unité et la concorde, vous soumettant les uns aux autres dans l'humilité de cœur, et dans le Saint-Esprit de vérité et de justice, en entendant et en tranchant toute affaire portée devant vous dans l'amour, le calme, la gentillesse et la chère unité, je dis comme un seul parti, tous pour la vérité du Christ et pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, et vous aidant les uns les autres selon toute capacité que Dieu a donnée. C'est dans cette voie et dans cet esprit que toutes choses doivent être parmi vous, sans perversité, dans aucune séparation de soi-même, ni dans la discorde et la partialité. Cette voie et cet esprit sont entièrement exclus, comme n'étant pas dignes d'entrer dans l'assemblée des serviteurs de Dieu, pour donner quelque jugement ou conseil parmi eux, en quelque cas que ce soit touchant le service de l'Église du Christ, dans laquelle son esprit d'amour et d'unité doit régner. Quelque temps, une affaire ou occasion est présentée à la réunion, qui soit douteuse ou difficile, ou qui ne relève pas du jugement des amis à leur assemblée, n'ayant pas pleine connaissance ou expérience des matières en instance, qu'alors en de telles occasions le jugement soit suspendu, de peur qu'une contestation stérile ne s'élève faute de pleine connaissance et de discernement dans ce cas, ou qu'une décision ne soit prise d'une manière malsaine ou non véridique, jusqu'à ce que davantage d'amis anciennement affermis dans la vérité, aient l'un. Car le travail et service propre de la réunion est d'ordonner correctement les affaires de la vérité dans les choses extérieures, parmi le corps des amis, et afin qu'une concorde et un assentiment généraux soient parmi les anciens d'entre eux, pour le gouvernement de l'ensemble, en écoutant et en considérant les choses convenables pour l'avancement de la vérité. Il fut enjoint à toutes les assemblées de ne rien changer au format, à l'ordre du jour ou à la politique sans l'accord des membres spirituellement mûrs. Tiré de la lettre 365, et amis, après que vos réunions ont été établies et imprégnées par la puissance du Seigneur, si vous les modifiez sans le consentement des amis dans la puissance du Seigneur, cela engendre et nourrit le mécontentement. Gardez donc vos réunions, après qu'elles sont établies, dans la puissance du Seigneur et vous-même établis en elles, sur Christ, le roc saint et le fondement de Dieu, qui demeure inébranlable. Tiré de l'introduction de George Fox à ses épîtres. Sarah Blackbury se plaint à moi des pauvres, et du grand nombre d'amis pauvres qui étaient dans le besoin, et le Seigneur m'avait montré ce que je devais faire, dans sa puissance et sa sagesse éternelle. Alors je lui dis de faire venir environ 60 femmes pour me rencontrer vers la première heure de l'après-midi, à l'enseigne du 1 mai, dans la maison d'un ami. Et elles le firent en conséquence, des femmes sensées quant à la vérité du Seigneur et craignant Dieu. Et ce que le Seigneur m'avait révélé, je le leur déclarai, qu'elles tiennent une réunion une fois par semaine, chaque seconde, afin qu'elles puissent voir et s'enquérir des besoins de tous les amis pauvres qui étaient malades et faibles, et dans le besoin, ainsi que des veuves et des orphelins dans la ville et les faubourgs. Et ainsi elles bénirent le Seigneur pour la sagesse de Dieu, qui avait établi parmi elles une telle réunion dans sa puissance. Car elles virent que tous ceux qui étaient héritiers de la puissance de Dieu devaient prendre possession de la puissance de Dieu, de l'Évangile et de son ordre, lequel existait avant que le diable fût. Et cela les amena à la pratique de la religion pure, visiter les malades, pourvoir au secours des orphelins et des veuves, et veillait à ce que rien ne manquât parmi elles, et qu'en visitant les malades dans la puissance et la parole du Seigneur, elles auraient par elles la sagesse du Seigneur et de sa création, et comment administrer ses créatures, et par la même puissance guérir et fortifier au moyen des choses extérieures, et aussi sans elles. Ce qu'elles ont éprouvé comme prospère jusqu'à ce jour, et de grandes choses ont été faites dans leur réunion par la puissance du Seigneur, et cela a été très honorable aux yeux de tous les fidèles, oui, et louable aussi dans le monde. Et ensuite, ces mêmes réunions de femmes furent établies ça et là dans tout le pays, et au-delà des mers, dans la puissance du Seigneur, qui existait avant que le diable fût, puissance dans laquelle ni secte ni apostasie ne peut entrer, mais seulement la paix et l'unité. Et la puissance du Seigneur, l'Évangile, est l'autorité de toutes les réunions d'hommes et de femmes, et tous les héritiers de la puissance, l'Évangile, tant les hommes que les femmes doivent prendre possession de leur héritage dans la puissance de Dieu, qui est au-dessus du diable. Ainsi en elle, rien ne peut s'interposer entre eux et le Seigneur Dieu. Et lors de l'établissement des réunions d'hommes dans l'Évangile, la puissance de Dieu, je leur fis voir comment, dès la première conversion parmi les chrétiens primitifs, ils avaient une réunion d'hommes, composée d'hommes fidèles et remplis du Saint-Esprit, et ceux-ci devaient veiller, dans la puissance et la sagesse du Seigneur, à ce que rien ne manquât. Car puisque les chrétiens avaient renoncé au temple des Juifs, à leurs trésors et à leurs prêtres, où l'on secourait les veuves, les étrangers et les orphelins, ils établirent une réunion d'hommes dans la puissance de Dieu et dans le Saint-Esprit, et ils avaient aussi des diacones, afin de veiller à ce que les veuves, les orphelins et les étrangers fussent secourus, et que rien ne manquât parmi eux. Or, quoique cette pratique ait été perdue depuis les jours des apôtres, depuis que les hommes se sont éloignés de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit dans lequel étaient les apôtres, et c'est pourquoi les rues et la campagne sont si remplies de veuves, d'étrangers et de mendiants, et si pleines de besoins, faute du sentiment du bon esprit et de la puissance qui ouvre les cœurs, comme l'avaient les apôtres et les chrétiens primitifs. Mais l'Évangile, éternel étant de nouveau prêché par le même Saint-Esprit dans lequel étaient les apôtres, et reçu du ciel comme ils l'avaient reçu, et des milliers ayant maintenant reçu cet Évangile de nouveau, des réunions d'hommes sont établies, comme au jour des apôtres, dans la puissance de Dieu et dans le Saint-Esprit. Et des réunions de femmes, comme mères, afin qu'elles puissent être des enseignantes de bonnes choses, et ainsi veiller à ce que rien ne manque parmi eux, et ainsi faire du bien à tous, mais surtout à la maisonnée de la foi. Et maintenant, la puissance de Dieu est l'autorité tant de nos réunions d'hommes que de nos réunions de femmes, et de toutes nos autres réunions. Cette puissance de Dieu existait avant l'apostasie d'avec les apôtres, et avant la chute et le diable, et elle est au-dessus de tout, et tous doivent en prendre possession, et en elle faire le service et les affaires de Dieu. Ainsi ces réunions sont pour les convertis et les élus, avant la fondation du monde, et pour ceux qui sont héritiers de la puissance et la possèdent, et ce qu'ils font et accomplissent dans l'Esprit et la puissance de Dieu, ils le font dans ce qui n'aura jamais de fin, à la gloire de Dieu à jamais. Amen. Tiré de l'introduction de William Penn, nous voyons encore l'origine des réunions d'affaires. Cet ancien pieu George Fox, dans chaque comté où il voyageait, les exhortait à ce que quelques-uns de chaque réunion de culte se réunissent ensemble une fois par mois pour conférer au sujet des besoins et des événements de l'Église. Selon les nécessités, ces réunions mensuelles étaient plus ou moins nombreuses dans chaque comté. 4 ou 6 réunions de culte formaient ordinairement une réunion mensuelle d'affaires. Et en conséquence, les frères le rencontrèrent de lieu en lieu et commencèrent les réunions mensuelles, concernant les pauvres, les orphelins, la marche avec ordre, l'intégrité dans leur profession, les naissances, les mariages, les enterrements, les souffrances, etc. Dans chaque comté, ces réunions mensuelles devaient former une réunion trimestrielle, où les amis les plus zélés et les plus éminents du comté s'assembleraient pour communiquer, conseiller et s'entraider, surtout lorsqu'une affaire paraissait difficile ou qu'une réunion mensuelle hésitait à trancher une question. De plus, ces réunions trimestrielles devaient digérer les rapports des réunions mensuelles et en préparer un pour le comté en vue de la réunion annuelle, où les réunions trimestrielles arrêtent leurs résolutions, réunion qui se tient chaque année à Londres, où les églises de cette nation et d'autres nations et provinces se rassemblent, par des membres choisis de leurs comtés respectifs, tant pour communiquer mutuellement leurs affaires d'église que pour conseiller et être conseillés sur toute question non résolue en vue d'amélioration. Ils se réunissaient aussi pour pourvoir aux fonds destinés à acquitter les dépenses générales pour les services généraux dans l'Église, ce qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ici. À ces réunions, n'importe lequel des membres des Églises pouvait venir, s'il le souhaitait, et exprimer librement son avis dans la crainte de Dieu sur toute affaire. Mais les décisions sur toute question examinée sont rendues par les personnes désignées pour être membres de la réunion et par l'ensemble des membres de la réunion. Durant leur réunion annuelle, à laquelle les réunions trimestrielles ont renvoyé certaines questions pour décision, un soin particulier est pris par un nombre choisi, élu pour ce service par l'Assemblée générale de rédiger le procès-verbal de la réunion, comprenant les diverses matières qui ont été examinées, afin que les réunions trimestrielles et mensuelles respectives soient informées de toutes les démarches, avec une exhortation générale à la sainteté, à l'unité et à la charité. Dans toutes les démarches des réunions annuelles, trimestrielles et mensuelles, un registre d'hume tenu est conservé par une personne désignée pour ce service, ou qu'il a volontairement entrepris. Ces réunions s'ouvrent et se concluent ordinairement dans une attente solennelle devant Dieu, qui, parfois, daigne gracieusement leur répondre par des preuves aussi remarquables de son amour et de sa présence que dans n'importe laquelle de leurs autres réunions de culte. Il est encore noté que, dans ces solennelles assemblées au service de l'Église, personne ne préside parmi eux, comme c'est l'usage dans les assemblées d'autres peuples, Christ seul est leur président, selon qu'il lui plaît d'apparaître en vie et en sagesse en l'un ou en plusieurs d'entre eux. Quelle que soit leur capacité ou leur rang, les autres écoutent avec une unité ferme, non d'autorité, mais de conviction, qui est l'autorité divine et la voix de la puissance et de l'Esprit du Christ dans son peuple, accomplissant sa bienheureuse promesse, qu'il serait au milieu des siens, ou et quand il serait assemblé en son nom, jusqu'à la fin du monde, ainsi soit-il. Et d'après Valiant for the Truth, nous avons se relevé des conditions requises pour prendre les décisions concernant la discipline des membres, nécessaires pour préserver l'unité de l'esprit et la réputation de la vérité et de l'Église dans la communauté, laquelle n'était jamais meilleure que la réputation de ses membres. Dans les procès-verbaux de la réunion annuelle de 1676, nous trouvons les conditions requises pour être membre de ces réunions. Tous les hommes et toutes les femmes fidèles en tout pays, ville et nation, dont la foi repose dans la puissance de Dieu, l'Évangile du Christ, et qui ont reçu cet Évangile, et sont en possession de cet Évangile, la puissance de Dieu, ont droit à la puissance de cette réunion, car ils sont héritiers de la puissance et de l'autorité des réunions d'hommes et de femmes. Tous ceux-là étaient admis à ces réunions de discipline, ou bien, s'ils étaient enfants de membres et jugés convertis, ils étaient invités à assister aux réunions d'affaires. En ces premiers temps, il existait une appartenance extérieure de ceux qui professaient avec les amis, qui avaient droit à une surveillance pastorale et, en cas de nécessité, à une aide et un secours pécuniaire, mais qui n'étaient pas considérés comme aptes à exercer la discipline de l'Église, laquelle était confiée aux mains d'amis plus expérimentés. La conversion à Christ, c'est-à-dire purifiée, sanctifiée, renouvelée en esprit et en cœur, en était la distinction. Si quelqu'un était jugé par les anciens être converti, il était invité à participer aux réunions de discipline. S'il n'était que convaincu, pas encore converti, il n'était qu'un participant aux privilèges de l'Église. Tiré de l'histoire de la Société religieuse des Amis, de Janet, vol. 4 disciplines de la Société des Amis, l'origine et le caractère de ce système de gouvernement de l'Église furent, dans ses traits essentiels, recommandés par George Fox, et, avec quelques modifications, adoptés par la Société des Amis. Réunion de discipline. Les réunions de discipline dans la Société des Amis sont appelées préparatoires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. La réunion préparatoire consiste généralement en une seule assemblée, ce n'est pas une réunion de registre, son but est de préparer et de rapporter les affaires à la réunion mensuelle dont elle dépend. La réunion mensuelle peut consister en une seule assemblée ou être composée de plusieurs réunions préparatoires contiguës. Elle est considérée comme l'organe exécutif de la société, étant chargée du pouvoir de recevoir ou de désavouer des membres, de délivrer ou d'accepter des certificats de transfert, de diriger et d'enregistrer la célébration solennelle des mariages, de tenir un registre des naissances et des décès, de pourvoir au soutien des pauvres et à l'éducation de leurs enfants, de s'enquérir à des périodes fixées de l'état de la société dans ses limites, et d'en transmettre un compte rendu à la réunion trimestrielle. La réunion trimestrielle est d'ordinaire composée de plusieurs réunions mensuelles contiguës, et dans certains cas, elle se tient alternativement en différents lieux. Son but est de recevoir les rapports des réunions mensuelles qui lui sont subordonnées et de les incorporer dans un rapport général à la réunion annuelle. Elle exerce une supervision générale des réunions mensuelles qui la composent. La réunion annuelle est composée de toutes les réunions trimestrielles dans certaines limites, qui y envoient des représentants pour y assister et lui soumettre un rapport écrit. Les représentants n'ont pas plus de pouvoir que les autres membres présents, sauf qu'il leur est demandé de se réunir et de nommer un greffier, et d'examiner et de faire rapport sur toute autre affaire qui pourrait leur être renvoyée. Tout membre qui se juge lésé par le jugement d'une réunion mensuelle peut, après qu'une copie de son témoignage de désaveu lui a été remise, notifier en bonne et due forme son intention de faire appel à la réunion trimestrielle, et si la réunion trimestrielle décide contre lui, il peut de même faire appel à la réunion annuelle, dont le jugement en la matière est définitif. La réunion annuelle exerce une supervision générale sur toutes les réunions dans ses limites et émet des avis concernant l'état de la société et le soutien de ses témoignages. Elle est le plus haut tribunal de la société et a le pouvoir d'établir, de modifier ou d'abroger les règles de discipline, mais cette autorité est généralement exercée avec grande prudence et délibération, et seulement avec le consentement général des membres présents. Lorsqu'une modification des règles de discipline est jugée souhaitable, la marche ordinaire est qu'un membre, éprouvant la préoccupation, la propose dans sa réunion mensuelle, et si elle y est approuvée, la proposition est transmise à la réunion trimestrielle, où elle est examinée, et si elle recueille l'unité, elle est transmise dans le rapport à la réunion annuelle. Les diverses réunions annuelles à travers le monde sont indépendantes les unes des autres, étant établies en fonction des limites de temps de voyage nécessaires pour y assister. En 1800, il y avait des réunions annuelles à Dublin, Londres, en Nouvelle-Angleterre, à Philadelphie, Baltimore, en Caroline du Nord, en Virginie, dans l'Indiana et dans l'Ohio. Elles entretenaient une correspondance par lettres et, sur tous les points essentiels, leurs codes de discipline étaient presque les mêmes. Dans toutes les réunions de discipline, tout membre qui n'est pas l'objet d'une procédure pour une infraction à la discipline est libre de siéger et de prendre part aux délibérations. Les hommes et les femmes se réunissent dans des salles séparées et constituent des branches coordonnées d'une même réunion, chacune ayant son propre greffier, mais dans certains cas, ils nomment des comités conjoints pour préparer des affaires qui intéressent les deux branches. Les greffiers sont proposés par des comités et, après examen, nommés par la réunion. Il est du devoir du greffier de recueillir le sens ou le jugement des membres présents et d'inscrire leurs décisions sur les questions qui peuvent être portées devant eux. Il est évident qu'une Église ainsi constituée ne peut agir selon le principe des corps politiques où la majorité gouverne, et il est plus répréhensible encore qu'une minorité s'arroge le droit de gouverner. Le seul moyen de préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix est que chaque membre qui participe à de telles réunions s'approche de la source de lumière et de vie, afin de demander la sagesse à Dieu, qui donne à tous les hommes libéralement et ne fait point de reproches. En l'attendant dans cette disposition d'esprit, chaque membre est libre, sous le sentiment du devoir, d'exprimer ses vues avec douceur, et si elles procèdent des purs enseignements de l'esprit de vérité, elles rencontreront le témoignage pour la vérité dans d'autres esprits, et recevant une réponse, prévaudront généralement dans la réunion. Il arrive parfois qu'un des membres plus jeunes, étant sans parti pris et entièrement résigné à suivre ses impressions de devoir, devienne l'instrument pour indiquer la bonne voie, laquelle, acceptée par les autres, est adoptée par la réunion. Mais dans la plupart des cas, on attend des membres plus âgés et plus expérimentés qu'ils prennent la direction en toutes affaires importantes. Bien qu'il puisse d'abord y avoir une certaine diversité de sentiments, il arrive rarement qu'une réunion où l'amour divin prévaut demeure longtemps dans le doute sur quelque chose qu'il est nécessaire de décider. Une réunion peut être jetée dans la confusion en entrant dans la discussion de questions qui ne relèvent pas de sa compétence propre. En sortant ainsi de son domaine, elle n'a aucun droit d'attendre une direction divine. Si un degré considérable d'unanimité ne peut être atteint, il vaut mieux ne pas insister sur une décision, mais plutôt attendre et ajourner de temps en temps, ou écarter la question. Lorsque la discipline ne peut être exercée avec de bons sentiments et une unanimité supportable, il vaut mieux s'arrêter, car si l'unité et l'amour ne prévalent pas, c'est la preuve que l'Esprit du Christ ne sanctionne pas nos démarches. Et comme les Israélites d'autrefois, nous devons prendre garde de ne pas avancer tant que la nuée repose sur le tabernacle, que ce soit deux jours, ou un mois, ou une année. Tirez de la lettre 256 et soyez diligents dans toutes vos réunions, et veillez au placement des apprentis, de tous les enfants orphelins et des enfants d'amis pauvres, et à ce que toutes les pauvres veuves soient soigneusement prises en charge, afin que rien ne manque parmi vous, alors tout ira bien. Il existe de nombreux avis concernant l'ordre de l'Évangile dans les lettres 263 et 264 de George Fox. Cliquez sur le numéro de la lettre pour lire. La lettre 260, vous tous qui croyez en la lumière, comme le Christ l'a commandé, qui êtes devenu enfant de la lumière, et du jour et de la promesse, et qui exercez un ministère, ne vous jugez pas les uns les autres dans les réunions publiques. Vous qui exercez un ministère, comme vous avez reçu la grâce que la parole du Seigneur Dieu vous a été confiée, vous qui servez au dehors ou allez au dehors dans les villes, les bourgs, les campagnes ou les nations, ne vous jugez pas les uns les autres, ni ne vous renvoyez des reproches. Si vous avez quelque chose à dire, ayez patience, laissez ce don s'exercer, et parlez-vous à vous seul en particulier, car telle était la voie avant qu'on ne dise quoi que ce soit contre quiconque dans l'Église. Et cela montrera l'esprit d'ordre et de gouvernement, tiré de la lettre 284 ainsi, dans toutes vos réunions d'hommes et de femmes, veillez à ce que la vertu s'écoule, veillez à ce que toutes vos paroles soient pleines de grâce, veillez à ce que l'amour s'écoule, lui qui supporte toutes choses afin que la bonté, la tendresse et la douce. Tiré de la lettre 313. Les amis ne doivent pas se réunir comme une compagnie de gens au sujet des affaires de la ville ou de la paroisse, ni dans leurs réunions d'hommes ni dans celles de femmes, mais pour attendre le Seigneur. Et sentant sa puissance et son esprit les conduire et les ordonner à sa gloire, afin que tout ce qu'ils peuvent faire, ils le fassent à la louange et à la gloire de Dieu, et dans l'unité de la foi et dans l'esprit, et dans la communion fraternelle dans l'ordre de l'Évangile. Et le diable et ses instruments ne peuvent entrer dans cet Évangile, qui est la puissance. Mes chers amis, que chaque réunion trimestrielle fasse enquête auprès de toutes les réunions mensuelles et autres, afin de connaître tous les amis qui sont pauvres, veuves ou autres, qui ont des enfants en âge d'être placés en apprentissage, de sorte qu'une fois par trimestre vous puissiez placer un apprenti au départ de votre réunion trimestrielle. Ainsi vous pourrez en placer 4 par an, dans chaque comté, ou davantage s'il y a lieu. Cet apprenti, lorsqu'il aura achevé son temps, pourra aider son père ou sa mère, et soutenir la famille qui est déchue, Et ce faisant, tous pourront en venir à vivre confortablement. Cela étant fait dans vos réunions trimestrielles, vous aurez connaissance, dans tout le comté, par les réunions mensuelles et particulières, des maîtres qui leur conviennent et des métiers que leurs parents, ou vous désirez, ou auxquels les enfants sont le plus enclins. Ainsi, étant placés chez des amis, ils pourront être élevés dans la vérité, et par ce moyen, dans la sagesse de Dieu, vous pourrez préserver les enfants des amis dans la vérité et les rendre capables d'être une force et un secours pour leur famille, ainsi que des soutiens et des conservateurs de leurs proches dans leur vieillesse. Ainsi aussi, les choses étant ordonnées dans la sagesse de Dieu, vous supprimerez un entretien continuel et vous vous affranchirez d'un grand fardeau. Car à la campagne, vous le savez, vous pouvez placer un apprenti pour peu de choses dans plusieurs métiers, comme briquetier, maçon, charpentier, charron, fabricant de charrues, tailleur, tanneur, teinturier du cuir, forgeron, cordonnier, fabricant de clous, boucher, tisserand de toile et d'étoffe de laine, et autres métiers de la laine, etc. Et vous ferez bien de réserver des fonds dans vos réunions trimestrielles à cette fin. Tout ce qui est donné par quelque ami à son décès, à moins que ce ne soit donné pour un usage, une personne ou une réunion particulière, peut être versé au fonds public à cette fin. Ce sera un moyen de préserver beaucoup de ceux qui sont pauvres parmi vous, et ce sera un moyen d'aider financièrement les familles pauvres. Dans plusieurs comtés, cela se pratique déjà. Certaines réunions trimestrielles parrainent deux apprentis, et parfois les enfants d'autres personnes qui sont à la charge de la paroisse. Vous pouvez les lier pour moins ou plus d'années, selon leur capacité. En toutes ces choses, la sagesse de Dieu vous enseignera, par elle vous pourrez aider les enfants des amis pauvres, afin qu'ils puissent élever leur famille et les conserver dans la crainte de Dieu. Ainsi, rien de plus, sinon mon amour dans la semence éternelle, par laquelle vous aurez la sagesse d'ordonner toutes choses à la gloire de Dieu. George Fox 4 Londres, le premier jour du 11 mois, 1669. Tiré de la lettre 317. Or donc, ami, quiconque viendra, sous quelque prétexte que ce soit pour modifier ses réunions, ou pour nier ou parler contre les réunions d'hommes et de femmes, c'est l'esprit de confusion et d'opposition qui voudrait avoir l'apparence de faire quelque chose, alors que son œuvre est de troubler les esprits simples. Et c'est exactement le même esprit que celui de John Perrault, et remarquez sa fin et leur fin, et celle de tous ceux qui s'y joignent. Et c'est un esprit insidieux, qui voudrait changer les jours habituels et constants des réunions, sous prétexte d'empêcher les gens de se corrompre en observant un jour fixe, ou sous prétexte de les tenir à l'écart d'une forme, et ainsi voudrait attribuer sa tromperie à Dieu. Tiré de la lettre 116, ne vous jugez pas les uns les autres dans les réunions, vous qui exercez le ministère dans les réunions, car votre conduite a fait du tort au peuple, au-dedans comme au-dehors, et vous vous êtes exposés à leur jugement. Et le fait de vous juger les uns les autres dans les réunions a enhardi d'autres à crêler et à vous juger aussi dans les réunions. Et tout cela a été en désordre, ainsi que l'ordre de l'Église. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, attendez que la réunion soit terminée, puis parlez-lui en privé entre vous, et ne mettez pas au grand jour la faiblesse les uns des autres, car c'est faiblesse et non sagesse que d'agir ainsi. Car le fait de vous juger les uns les autres dans les réunions a presque détruit certains amis et les a troublés. Et cela vient d'un manque d'amour qui supporte toute chose, que cela soit donc corrigé, rien de plus, sinon mon amour. Tiré de la lettre 162. Gardez vos réunions dans la puissance de Dieu et dans sa sagesse, par laquelle toutes choses ont été faites, et dans l'amour de Dieu, afin que par cela vous ordonniez tout à sa gloire. Et lorsque les amis ont terminé leurs affaires, asseyez-vous et demeurez encore un moment en silence, et attendez le Seigneur pour le sentir. Et n'allez pas au-delà de la puissance, mais demeurez dans la puissance, par laquelle Dieu Tout-Puissant peut être senti au milieu de vous. Tiré de la lettre 226, parmi les amis, il circule des bruits ou des suppositions au sujet de quelqu'un, ou des médisances, ou des chuchotements, toutes ces choses doivent être arrêtées et examinées, car ainsi a dit le Seigneur, vous ne répandrez pas un faux bruit parmi mon peuple. Et que quelques amis fidèles de chaque réunion, dont la sincérité vise la gloire de Dieu, son honneur et son saint nom, dans lequel ils sont tous appelés, soient choisis pour rechercher de telles choses, et poursuivre l'affaire jusqu'à ce qu'il en trouve l'auteur ou les auteurs, afin que cela ne repose sur personne, ni en personne, mais que tout soit éclairci et dégagé dans chaque esprit, et que tous les bruits soient arrêtés, et que les choses qui méritent jugement soient jugées et condamnées. Et de plus, que les amis prennent connaissance de tous ces amis qui vont en mer, marins, marchands, capitaines de navires et passagers, au loin et au pays, qui professent la vérité, afin que s'ils ont de quelque manière déshonoré le Seigneur Dieu et suscité un mauvais rapport, soit dans leur commerce, leur vie ou leur conduite, sur la vérité et le bon pays, et déshonorer le Seigneur Dieu et son nom, la vérité et son peuple, ils en sont le fond, afin que, s'ils ont fait quelque chose digne de condamnation et de jugement, cela soit prononcé. Et si le rapport est faux, que leur innocence soit manifeste, et que le rapporteur soit repris. et ainsi que tous ceux qui professent la vérité marchent dans la vérité et dans la lumière du Seigneur, qui sont des enfants de lumière, qui portent leur nom d'après le Dieu vivant. Et que tous soient circonspects, diligents et attentifs en toutes ces choses, afin que Dieu ne soit en aucune manière déshonoré, mais qu'en toutes choses vos vies et vos paroles prêchent, vous qui professez la vérité. Et tous ceux qui sont partis d'Angleterre et ont déshonoré Dieu au-delà des mers, qu'on écrive au-delà des mers pour rechercher et connaître le fond de l'affaire, afin que tous les obstacles qui ont empêché la gloire de Dieu et la propagation de sa vérité soient ôtés, afin que le nom du Seigneur ne soit pas déshonoré, ni sa voix et sa vérité mal parlées. Et ainsi, tous les rapports étant examinés, dans toutes les plantations, concernant les amis qui s'y trouvent, si quelqu'un fait quelque chose pour déshonorer la vérité au-delà des mers, qu'il soit amené au jugement et à la condamnation, et qu'il produise des écrits à ce sujet, afin que ces écrits puissent être envoyés au loin pour ôter l'opprobre des innocents, et ainsi répondre aux témoins de Dieu en eux par leur repentance. Et s'ils ne veulent pas écrire leur propre condamnation, alors les amis doivent écrire et les désavouer, et enlever cela de la bouche du monde. Et tous les amis qui ont déshonoré Dieu, sa vérité et son peuple, et que les amis sont allés avertir selon la voie de l'Évangile, et qui continuent néanmoins dans leur méchanceté et ne se repentent pas, les amis peuvent rédiger un écrit dans leur réunion, contre leur conduite déréglée, leurs esprits indociles et leur relâchement en termes généraux, sans mentionner les détails, à moins qu'ils ne soient notoirement connus. Et que les amis fassent cela promptement et la portent aux réunions. Et si quelqu'un est connu pour être un transgresseur manifeste, qu'alors il y ait un témoignage public particulier contre lui, montrant que nous n'avons ni unité ni communion avec de tels ouvriers des ténèbres, et comment ils se sont eux-mêmes exclus d'entre nous, s'étant éloignés de la vie et de la puissance de Dieu, dans lesquels est notre communion. Et que des copies de l'écrit soient lues dans les réunions, et que les copies des écrits soient envoyées aux réunions d'hommes dans les pays où ils vivent. Tiré de la lettre 316 et donc, je dis, en lui vivez et marchez, et gardez sa communion évangélique et son ordre, afin que les hommes et les femmes puissent être des aides, dans les réunions distinctes des hommes et des femmes, les uns pour les autres dans l'Évangile, la puissance de Dieu, dans la restauration comme l'homme et la femme l'étaient auparavant avant leur chute. Ainsi, si les hommes ont quelque chose à communiquer aux femmes, ou les femmes quelque chose aux hommes, dans la justice, la sagesse et la puissance de Dieu, dans l'ordre évangélique, dans lequel sont gardés la communion céleste, l'unité et l'ordre, ils le peuvent comme frères et sœurs. Voilà donc le fondement de nos réunions, et nos réunions d'hommes et de femmes sont attestées par l'Esprit du Dieu éternel, que leur fondement est le Christ, et de l'accroissement de son gouvernement juste, glorieux et spirituel, et de sa paix il n'y a point de fin, ni de la glorieuse unité de l'ordre éternel et céleste de son évangile céleste, que les esprits spirituels et célestes gardent et dans lesquels ils marchent en conséquence, ce qui n'est pas de l'homme ni par l'homme, ainsi l'homme n'a aucune gloire mais Dieu est le Christ seul. Tiré de la lettre 350 et maintenant, mes amis, s'il survient quelque différend parmi les amis, soit entre amis soit avec le monde, qu'il soit renvoyé à arbitrage s'il ne peut être terminé entre eux, et que tous ceux qui sont concernés pour mettre fin à un différend n'aient qu'une oreille pour une partie, et qu'ils réservent l'autre oreille pour entendre l'autre partie, afin qu'ils puissent juger impartialement des affaires sans affection ni faveur, ni acception de personne. Car vous pouvez voir comment les Juifs, sous l'ancienne alliance, jugeaient les choses entre eux tant qu'ils gardaient la loi de Dieu, et n'allaient pas vers d'autres nations ni vers les païens pour qu'ils jugent leurs affaires. Et c'est pourquoi l'apôtre reprend les Corinthiens pour cette faute d'intenter des procès les uns contre les autres devant les incrédules, et leur dit que les saints jugeront le monde, oui les anges. Combien plus donc pourraient-ils juger des choses qui concernent cette vie? Et c'est pourquoi l'apôtre exhorta, « Si donc vous avez à juger des choses qui concernent cette vie, faites juger ceux qui sont le moins estimés dans l'Église. » Et le Christ a dit, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes de plus, afin que toute parole soit établie sur la déposition de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et plus loin, le Christ a dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matt 18, 20. Et le Christ a dit, « Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois en un jour, et sept fois, s'il revient en disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Luc 17, 24. Tiré de la lettre 373. Or donc, chers amis, qu'il n'y ait point de crêle dans toutes vos réunions, ni de vains débats doctrinaux ni de disputes, mais que tout ce qui tente à la crêle soit réglé en dehors de vos réunions, afin qu'elle soit maintenue paisible, de sorte que vous soyez en paix entre vous, et que le Dieu de paix et d'amour remplisse tous vos cœurs, cet amour qui édifie son Église. Et condescendez les uns envers les autres dans la crainte du Seigneur, à ce qui est honnête, juste, vertueux et de bonne réputation, et là où il y a eu quelque faiblesse en quoi que ce soit, qu'elle soit couverte et ensevelie dans l'esprit et l'amour de Dieu, afin que son esprit et son amour soient au-dessus de tout en vous tous, pour unir tous vos cœurs ensemble, et que vous montriez tous que vous êtes les enfants par lesquels la sagesse céleste est justifiée, laquelle est pure remarquée, pure paisible, douce et facile à fléchir, et qui est au-dessus de la sagesse. Et dans toutes les affaires, ou différends, ou controverses, traitez-vous les uns les autres avec bonté et douceur, et ne soyez pas violents, ni téméraires, ni orgueilleux, car cet esprit amènera les hommes et les femmes à s'aimer eux-mêmes, et à mépriser les autres, ainsi que ce qui est bon, ce qui détourne la nature de son cours, et ainsi perd les affections naturelles, et finit par n'avoir plus d'affections naturelles. Tiré de la lettre 374, considérez donc, les saints hommes et les saintes femmes de Dieu ne doivent pas se crêler, mais être doux envers tous, et c'est en cela seul qu'ils gardent leur domination, car vraiment, amis, l'amour rassemble dans l'amour et édifie le corps du Christ. Et que rien ne soit fait dans la crêle, mais dans l'amour, à la gloire de Dieu, au nom du Christ et dans sa puissance, afin que vous puissiez tous voir et sentir le Christ au milieu de vous, vous ordonnant tous à sa gloire par sa sagesse qui est pure, paisible et facile à fléchir, afin que nul ne soit chargé ni opprimé dans vos réunions, mais que la vie et la semence règnent en vous tous, et ainsi le Seigneur aura la gloire de tout, et vous aurez tous du réconfort en lui, votre chef. Et ne disputez pas trop avec les parleurs indociles, mais gardez votre paix dans l'esprit et la puissance du Christ, et soyez attentifs, dans toutes vos réunions, à ce qu'elles soient maintenues paisibles dans la sagesse de Dieu, qui est pure, paisible et facile à fléchir, afin que la sagesse soit justifiée par ses enfants. Qu'il n'y ait ni dureté ni violence, mais douceur et bienveillance, et un langage plein de grâce, qui édifiera et donnera de la saveur à ceux qui écoutent, et sera d'une bonne odeur. Et cela honorera la semence, le Christ, d'où viennent la grâce et la vérité, ce sera pour votre consolation, et cela montrera de qui vous êtes les enfants, car comme le Christ l'a dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils sont enfants de Dieu. Faites donc tous cette œuvre, afin d'avoir cette bénédiction. Tiré de la lettre 408 au sujet de la réunion des 6 semaines, et que tous ces soins de parler brièvement et à propos des sujets, dans un esprit chrétien de régler les affaires rapidement, et d'éviter les longs débats et les échauffements, et par l'Esprit de Dieu d'abaisser ce qui s'attache à des questions et à des crêles de mots, qui tendent au parti et à la contention, chose pour laquelle il n'y a point d'usage à admettre dans l'Église de Dieu. Et de même, ne pas parler plus d'une personne à la fois, ni parler d'une manière violente, car cela n'est à tolérer dans aucune société, ni naturelle ni spirituelle, mais, comme l'apôtre l'a dit, soyez prompts à écouter et lents à parler, et que cela se fasse dans la grâce qui assaisonne toutes les paroles. Et s'il y a des différends qui ne peuvent être rapidement terminés dans la réunion, que la réunion des 6 semaines charge quelques amis d'entendre l'affaire hors de la réunion, sans exception de personne, et de rapporter au même rassemblement le même jour si possible, et la réunion pourra rendre jugement, afin qu'aucune affaire ne soit remise de temps en temps. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.